Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 12 février 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Voilà, ce qui est dit est dit. Ça vous va, Goffman ?
Ça me va encore mieux que la dissidence.
Bon, alors c'est bien. Donc, Victoria n'est pas là, parce que Victoria, c'est une espèce de tanagra et d'une fragilité rare, et un coup de vent, pof, ça y est, elle tombe en morceaux. Alors on l'embrasse, on lui souhaite de se remettre rapidement et de revenir... orné de sa voix mellifluée, ses émissions. Goffman l'embrasse. Toutes les personnes présentes ici l'embrassent. Voilà. Y compris Maître Wagner, Maître Delcroix.
Bien sûr.
Colin Duro, vous embrassez Victoria aussi.
Absolument.
Non, c'est bien. Cher Hegel,
moi, je l'étouffe de baiser.
Ah, bon, c'est bien. C'est gentil. Je sais que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, tout le monde embrasse Victoria et remettez-vous vite. Buvez du lait, mangez du fromage, il paraît que c'est bon pour les os. Ce soir, nous recevons donc le colonel Duréau, qui est officier de réserve, ou du cadre de réserve. Comment on dit maintenant pour, je ne sais plus moi,
avec la nouvelle armée. Officier de retraite, enfin les deux.
Officier de retraite. Mais officier de retraite, ça fait un peu Bérésina, c'est voilà. Toujours un peu.
Moi, officier de réserve. J'ai encore un an de réserve.
Alors, très bien. J'espère que vous tiendrez plus longtemps.
Un an quand même. C'est pour ça. Absolument.
Nous recevons. Alors, le colonel Duréau est président de l'association.
Non, pas du tout. Alors, je suis le conseiller militaire, entre guillemets.
Mais là, je parle des zouaves
des zouaves pontificaux. Oui. Ah, je suis président de l'association des descendants des zouaves pontificaux.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Dont tu es le zouave d'honneur.
Je suis un zouave d'honneur. Oui, j'ai toujours aimé jouer le zouave. Et il y a un autre zouave. C'est le Pierre Argouache, non ?
Ah bah oui,
est
alors lui. C'est l'aumônier, absolument.
Voilà, mais il n'est pas là ce soir. Tiens, il m'a demandé de dire... Ah oui, tiens, il faut que j'y pense. Il m'a demandé de dire, le Pierre Argouache, que c'est quand Victoria n'est pas là, je suis paumé. Quand elle est là, je ne suis pas beaucoup retrouvé, d'ailleurs. Samedi prochain, à 10h, il y aura la bénédiction de la pose de la première pierre de l'église Saint-Jean-Baptiste l'Éclaireur à Riaumont, au village d'enfants de Riaumont, à Liévin. Alors, je dis aux auditeurs à Liévin parce que certains auditeurs cherchent sur des cartes le village de Riaumont, qui présente l'intéressante particularité de ne pas exister. Le village d'enfants de Riaumont, c'est une petite colline qui est dans la ville de Liévin. Et c'est un endroit complètement incroyable d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, allez vite le visiter. Et l'occasion ou jamais, c'est samedi prochain à 10h pour la bénédiction de la première pierre. En présence, et ça c'est un événement quand même, de l'évêque d'Arras, Monseigneur Gégère. Alors, ben oui, mais attendez, ce qui est un événement considérable, c'est qu'un évêque conciliaire participe, apporte sa caution à une la création d'une église dans un lieu qui est quand même un lieu de la tradition. C'est bon signe.
Conciliaire et conciliant.
C'est un conciliaire conciliant, voilà. Et il faut savoir que cette église, c'est pas une petite chapelle à deux sous. C'est un truc qu'ils ont, comme tout ce que font les gens de Riaumont, c'est totalement... ils se lancent dans l'aventure, puis après ils disent « le bon Dieu pourvoira ». Donc c'est une magnifique église qui vient de construire, vous verrez, la première pierre est très très belle d'ailleurs. Pour l'instant, ce qui est surtout frappant, c'est le trou, on dirait le trou des Halles. Je sais pas, les gens qui ont de notre génération, mon cher Jean-Paul, vous vous souvenez
du... Ah oui, je me souviens des Halles avant, des Halles pendant le trou. Et
donc on dirait le trou des Halles.
Bah, c'est impressionnant.
C'est immense, incroyable, on a fait un banquet là-dedans, je pense qu'on pourrait tourner des films de cow-boys même.
Bah, comme dans le trou des Halles.
Voilà, le film de Marco. Et c'est pour ça que je faisais allusion. Et donc, ça va être une journée considérable, et qui, d'ailleurs, curieusement, confirme une prophétie qui avait été faite au fondateur de Riaumont, à qui on avait dit, un jour, vous bâtirez une cathédrale. À cet endroit, pas une cathédrale, mais enfin, ça a les dimensions d'une petite cathédrale. Ça aura les dimensions d'une petite cathédrale. Je précise aux auditeurs qui auront envie de s'y rendre que c'est à 2 heures de Paris, par l'autoroute du Nord, et que, à l'arrivée, il ne faut pas croire que vous en tirerez simplement avec une messe, il faudra mettre la main à la poche, bien entendu, parce que l'église, elle ne peut pas se construire toute seule. Hein. Voilà, les choses sont dites. Donc les autres invités de ce soir, c'est Maître Wagner et Maître Delcroix, donc l'illustration du barreau, qui ont bien voulu venir parler autour du livre d'Éric Delcroix, Le théâtre de Satan, de la situation actuelle de la justice. Ensuite, nous aurons la minute du marquis, qui sera chronométré, ce sera pas une minute, ce sera
7
minutes. Il a dit si on ne le dérange pas. Donc Goffman, vous priez de pas, hein. Voilà. Et puis dans la deuxième partie, nous recevrons alors des gens de grande qualité, puisque nous recevrons Juliette Mills, qui est la comédienne, mais surtout maintenant. La peintresse. Je sais pas pour être
peintre.
Ah oui, mais la peintre.
Le peintre.
Non, pourquoi pas peintresse.
La peintresse.
Maîtresse.
Oui, on peut
on dit notairesse, on dit VS.
On va pas en sortir, je crois qu'il vaut mieux dire le peintre.
Bon, oui, voilà. En tout cas, quand on la voit, on sait très bien que le masculin est une pure forme, c'est une pure commodité de langage.
Bon, sinon, on va s'en mêler les pinceaux, là.
Oui. Bien, et qui nous parlera de sa prochaine, de son exposition. Et puis, nous recevrons, alors, Monsieur William Bush, qui est américain, qui est un historien. Non, William, pas.
Oui. Il n'y a rien William, à voir. Pas W.
Qui est, non. D'ailleurs, tiens, pourquoi est-ce qu'on dit W? On a un truc en français qui s'appelle W. J'ai jamais compris pourquoi on se croyait obligé de dire, le président, quel est son prénom déjà?
George Walker.
Jojo le marcheur. À cause du Johnny du même nom. Là, c'est Monsieur William Bush qui est l'auteur des Carmélites de Compiègne, enfin d'un livre.
Apaiser la terreur, oui.
Voilà, apaiser la terreur.
Qui a reçu hier soir de mes mains le prix Saint-Louis.
Alors vous êtes encore dans cette affaire-là, donc.
Je suis dans cette affaire-là, oui.
Vous y étiez, vous, au prix Saint-Louis? Vous n'étiez pas? Qui est-ce qui m'a dit qu'il était au prix Saint-Louis, que c'était formidable?
Moi, c'était mon jour de lessive.
Ah bah oui, on peut pas tout faire. Il y aura également l'abbé Cellier, le marquis surveille, c'est la Vendée, parce qu'ils ont tendance à voler le linge de Fine Baptiste. Donc, il faut qu'elle fasse gaffe. Là, il y aura l'abbé Cellier, qui est l'éditeur du livre, et monsieur de Jaclot, qui est libraire. Et puis, nous donnerons la parole au petit Henri de Fersan qui viendra nous expliquer toutes les bonnes raisons qu'on a de s'abonner à son journal hebdomadaire, Le Libre Arverne. Voilà. Et à ce moment-là, je lâcherai peut-être Goffman pour qu'il dise toutes les bonnes raisons qu'on a de s'abonner au Libre Journal. Bien, alors, mon colonel, vous rentrez d'Irak. Parce voilà. que j'ai dit que vous étiez président des OAVs, des OAVs pontificaux, mais c'est pas en tant que OAV pontifical que vous êtes allé en Irak, c'est plutôt...
Non, ça c'est pas en tant que OAV pontifical et pas pour faire le OAV. Enfin, pour faire les OAVs pontificaux ne font pas les OAVs, bien sûr.
Vous êtes rentré avant-hier.
Alors, je suis rentré, nous sommes rentrés avant-hier, vers minuit. De 8 jours passés au moment d'événements actuels, à chaud, et notamment au moment de la conférence de Powell, et je vais en parler un peu. Bon, merci de me permettre de faire un petit compte-rendu de ce voyage.
Je suis un sadamite, comme dirait Sanders, donc forcément, je viens de sacrifier à mon vice impuni.
Alors, j'y étais en tant que... Alors, cette délégation était composée de quelques personnes, dont un conseiller militaire, entre guillemets, qui était moi-même, un conseiller médical, un médecin, et puis un conseiller diplomatique également, pour avoir un peu, en ces moments chauds, une palette complète. Ces 8 jours ont été extrêmement instructifs sur un certain nombre de plans que je peux détailler. D'abord, l'attitude du peuple irakien, qui est absolument extraordinaire, de pas de résignation, mais de calme et de sérénité. Et tout ce que je dis, bien sûr, nous l'avons vérifié sur le terrain et auprès du peuple irakien, pas auprès uniquement des dignitaires. Le peuple irakien vit actuellement dans la pauvreté, alors que c'est un pays, comme on le sait tous, qui est potentiellement très riche. Ils ont, y compris les dignitaires, y compris les ministres que nous avons rencontrés, les ministres irakiens, les numéros 3, 4, 5 du régime, ils sont vêtus de costumes élimés, qui visiblement sont des costumes qui datent d'avant 91. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils vivent pauvrement.
Mais tous les tailleurs sont partis.
Tous les tailleurs sont partis, et puis...
Les tailleurs sont tailleurs.
Et puis il y a surtout l'embargo dont je veux un peu parler. Bon, si ça n'était que sur les vêtements, ce ne serait pas encore trop grave, mais l'embargo sur des médicaments, notamment. Et le peuple irakien est sous le coup de cet embargo criminel, qui lui est imposé, donc, comme on le sait, depuis une dizaine d'années.
Mais comment avez-vous vu les gens de la rue? Vous avez pu vous promener librement?
Absolument.
D'abord, il n'y avait
aucun militaire pour nous encadrer, policiers, ceci, cela. J'ai été moi-même très surpris de la liberté que nous avions, y compris quand nous sommes allés parler longuement à la télévision irakienne satellite, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a vraiment une liberté complète. Les journalistes là-bas, les Anne Sinclair ou les Okrent sont extrêmement urbaines.
Les journalistes.
Rien à voir avec ce qu'on peut côtoyer ici en France. Et alors donc, pour revenir à l'attitude du peuple irakien, ils sont, contrairement à ce qu'on nous fait croire, puisque nous sommes sous le coup d'une désinformation absolument effrayante, ils sont derrière Saddam Hussein, derrière leur président, et j'ai moi-même vérifié, ils ont par famille une Kalachnikov, et par homme. Et je les ai vus dans les souks. Hein, je leur ai même demandé de me les montrer, on est allé dans l'arrière-boutique, parce qu'ils avaient très confiance en nous, puisque ils nous connaissent. Ils savent que l'association SOS Enfants d'Irak, présidée donc par Jenny Le Pen, qui est donc, comme on le sait, une femme extrêmement dynamique, et je pense qu'elle ne m'écoute pas là, en ce moment, donc je peux en parler en très bien.
nous sommes très connus.
Non, mais nous sommes très connus là-bas, puisque ça fait quand même 7 ou 8 ans que l'association SOS Enfants d'Irak va là-bas en apportant des matériels, des médicaments, etc. Et donc nous sommes connus, vraiment très connus en Irak. Et nous avons été reçus, mais presque comme des chefs d'État.
Vous m'avez dit tout à l'heure, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus. Vous nous avez dit que dans les familles, les gens ont des armes qui sont distribuées par le gouvernement.
Absolument. Des armes distribuées par le gouvernement. Et le ministre de la Défense irakien nous a dit personnellement que c'était d'ailleurs une des preuves que la population n'était pas prête à se rebeller.
Ben, c'est ça.
contre les tyrans autocrates.
Je connais pas beaucoup de dictateurs où on distribue des armes au peuple.
Absolument.
Histoire que s'il a envie de faire une révolution, il n'ait pas besoin d'aller se fournir ailleurs. C'est quand même assez troublant, cette histoire.
Oui, oui, absolument.
Vous êtes sûr que c'est répandu, c'est pas.
C'est répandu.
C'est pas réservé.
J'ai moi-même vu personnellement les armes. Enfin, des armes, j'en ai pas vu un million, évidemment, mais enfin, j'en ai vu quelques-unes.
Bah, les inspecteurs
dans des endroits,
de l'ONU non plus.
Voilà, dans des endroits reculés des souks, donc pas, je dirais, dans la grande bourgeoisie irakienne, s'il y en a une. Enfin, il doit y en avoir une quand même. Mais donc, vraiment, dans le peuple des souks, ils sont armés et ils sont prêts à se défendre. Quand je parlerai tout à l'heure de la rencontre avec le grand moufti à Karbala, d'une certaine manière, ça fait froid dans le dos, mais d'une autre manière, on les comprend très bien. Parce que le problème cette fois-ci, c'est que personne, évidemment, même pas les Irakiens, ne doute de la suprématie de l'armée américaine. Bon, ça se discute même pas deux secondes. La suprématie technologique, des moyens aériens, etc. Mais par contre, ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que le fantassin américain va mettre le pied sur le sol irakien. Et là, ça va pas du tout être la même chanson qu'il y a une dizaine d'années.
Alors, donc vous êtes allé dans les rues. Quels autres endroits avez-vous vu qui ne sont pas donnés à qui n'est pas donné à tout le monde
alors, Alors, ce qui a été, nous avons assisté dans la salle de presse du ministère d'information irakien le mercredi 5 février en direct à la conférence de Powell. Qui a donc parlé et qui a montré ces fameux clichés qui sont absolument bidons, non pas les clichés qui effectivement représentent réellement les sites dont je vais parler, mais l'interprétation qu'il en a faite, et c'est une machination, c'est une mystification et c'est un mensonge absolument gigantesque.
Une chose qui m'a quand même intrigué quand on a vu ça, c'est que depuis des années on nous dit que les Américains ont des satellites fabuleux qui arrivent à photographier le titre d'un journal que quelqu'un lit dans la rue, enfin on a entendu ça 200 fois, ils savent tout, le moindre mouvement de troupes, si vous prenez votre 4L pour aller de la Ferté-sous-Jouarre à choisir les buts, ils le savent, enfin, et puis là quand ils nous disent, on va vous montrer les preuves que les Irakiens sont extraordinairement dangereux, ils nous montrent des photos, on dirait que c'est ma grand-mère qui avait pris ça avec un Kodak, oui. Après avoir fait tomber la lentille
mais absolument.
Dans la soupe, alors je dis quand même, il y a un problème. Où ils se foutent du monde, enfin, où ils nous mentaient quand ils disaient qu'ils étaient les rois de la Pampa pour faire de l'espionnage, où ils nous mentent aujourd'hui en nous montrant ce qu'ils nous montrent.
Mais, c'est même pire que ça, je dirais. Parce que, 2 heures après la conférence de Powell aux Nations Unies, nous avons demandé au ministre de la Défense de nous ouvrir les deux sites de Rafah et de Al-Mutasim, qui ont été donc expressément visualisés et cités, et nous sommes partis dans les heures qui ont suivi visiter ce site. Il n'y avait pas du tout des armées d'Irakiens le poignard aux dents derrière nous, etc. On est entrés, mais extrêmement librement dans les sites, enfin évidemment on avait donné des ordres pour qu'on nous ouvre les portes. Et moi j'ai pu personnellement parler avec les directeurs de ces deux sites, les patrons de ces deux sites, et pour prendre le premier, le site de Al-Rafah, où on voit sur un cliché un espèce de petit toit, il faut savoir que ce toit, c'est tout simplement un abri contre le soleil qu'ils ont construit parce que l'ancienne aire de test des missiles, qui sont des missiles autorisés, puisqu'ils ont le droit de tester des missiles jusqu'à 150 km, donc là, on veut faire croire que ce sont des tests de missiles supérieurs à une portée de 150 km. En fait, c'est faux, parce que techniquement, les inspecteurs qui sont venus 10 fois entre le 1er décembre et le 31 janvier sont venus dans ce site d'Al-Rafah. Et je me suis fait présenter le cahier, le registre avec les signatures des inspecteurs. J'ai donc vu personnellement que c'était pas du vent ni du baratin, mais que les inspecteurs étaient bienvenus, qu'ils avaient vu ce site, que mieux, ils avaient vu cette fameuse aire sur laquelle on a construit un toit qui a été vu par satellite, et que, en fait, ce toit, c'était une amélioration du confort des techniciens qui teste les missiles. Mais ça n'était pas du tout, mais absolument pas, une ère nouvelle pour tester des missiles qui iraient jusque dans des pays que je ne citerai pas, mais qui sont dans la zone du Moyen-Orient. Donc c'est absolument mais une allégation mensongère. C'est une mystification monstrueuse.
La conférence de Powell, c'était un grand moment de comique, parce que, je le disais tout à l'heure, il a donc présenté des photographies qui étaient absolument illisibles. Ensuite, il a présenté une petite fiole en disant que c'était de l'anthrax, et on a su le lendemain qu'en fait, elle contenait de l'eau. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a salué le formidable travail des Anglais qui avaient remis un rapport au cordeau sur la puissance de feu de l'Irak. Et à ce moment-là, il y a un Anglais. Alors, il faut dire, les Anglais sont des emmerdeurs. Ça, alors là, c'est clair et c'est sûr et certain. Le lendemain, il y a un Anglais qui a dit, écoutez, petit rectificatif, le rapport qui a été fait par nos services, en réalité, j'ai vérifié, il est pompé entièrement sur une thèse qui a été présentée par un étudiant californien d'origine arabe il y a 10 ans. Donc c'est-à-dire quand même que le contenu, il a ajouté, parce que tant qu'à être méchant, autant l'être jusqu'au bout, il a dit, y compris les fautes de grammaire et les fautes de frappe. Donc, c'est les pieds nickelés contre les Marx Brothers.
Alors pour revenir à quelque chose, parce que ce qui intéresse, je pense, tout le monde, c'est ce qui est à chaud et ce qui est des choses vécues directement sur place, je reviens au centre de presse pendant la conférence de Powell, qui donc était transmise devant les 600 journalistes du monde entier qui étaient dans la salle, et nous étions au milieu de ces journalistes, et chose extraordinaire, lorsque Powell a cessé son discours, qui avait duré 1h30, après, on a passé la parole aux ministres des Affaires étrangères de certains grands pays, comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, il y avait un brouhaha dans la salle. Plus tout le monde se foutait complètement de ce que pouvait raconter Villepin, Stroh, le ministre anglais, etc. C'est-à-dire que c'est là où on voit que l'anglais, et donc l'Amérique, dirige tout et veut dominer le monde entier. Parce que, une fois la conférence de presse de Powell terminée, ce que pouvait dire en réaction ou en complément d'autres grands pays, dont on peut espérer qu'on en fait encore partie, ça n'intéressait plus personne. Mais il y a un brouhaha, une cacophonie dans la salle, et c'est là où tout le monde, les Russes sont venus me voir, ils m'ont dit, parce que j'ai la chance de parler russe, mais ils m'ont dit, finalement, même nous les Russes, on les intéresse plus, on n'intéresse plus personne. Ben, je leur ai dit non, c'est quelle tristesse.
Oui. Alors, vous pensez que les journalistes étaient des gens bien élevés, peut-être, non? Je sais pas, enfin. Oui, monsieur Goffman.
Il est sûrement permis de dire un peu de mal de Saddam Hussein au passage, et de dire, sans se faire tout à fait l'avocat du diable, que les Américains ont des preuves absolues que, curieusement, ils ne produisent pas du fait qu'ils possèdent ou qu'il a possédé, comme arme de destruction massive, au moins des gaz de combat qu'il a utilisés en 1988 à Alabaya contre les Kurdes, dont 5000 ont été gazés. Et alors, les preuves qu'ont les Américains, ce sont les suivantes, c'est que ce sont eux qui ont vendu les gaz de combat, ce sont eux qui ont vendu les hélicoptères Bell nécessaires pour les répandre. Curieusement, ils ne fournissent pas ces preuves. De même qu'on ne parle plus beaucoup en France de la centrale nucléaire vendue contre beaucoup d'argent et avec beaucoup de bonnes paroles, d'amitié, d'estime de M. Chirac pour M. Saddam Hussein.
Mais c'est, d'ailleurs, quand Bush disait « on va montrer les preuves », tout le monde pensait qu'il allait montrer les factures en réalité.
Et ce sont les propres fournisseurs en 90 d'armes, de munitions, qui maintenant veulent, pour des raisons inverses, mettre par terre ce malheureux pays.
Ah, il y a une question, mon colonel, que je vais vous poser, parce que Sherlock Holmes a encore frappé. Au colonel expert, on sent tout de suite l'intention méchante.
Ah oui, ça,
comment pouvez-vous reconnaître la signature des inspecteurs de l'ONU ? Êtes-vous expert en graphologie ?
Ah oui, hein ? D'accord.
Parce que c'est les services spéciaux irakiens qui ont imité les signatures des...
Effectivement.
Voilà. Oui. Ne manquez pas, chers auditeurs, de continuer à nous faire part de vos réflexions.
Est-ce que je peux dire aussi, à moins que tu veuilles...
Non.
Ce que je peux dire aussi, c'est que, pour comprendre aussi les choses, les Irakiens considèrent que le Koweït, dont ils estiment eux-mêmes qu'ils ont fait l'erreur de l'envahir il y a 10 ans, piégés par les Américains, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été piégés par les Américains.
Oui. Mais incité, on peut dire incité, absolument, incité. Absolument.
Je vois qu'ici autour de moi, on connaît bien le problème. Mmh. Mais le Koweït pour eux, c'est l'Alsace-Lorraine pour nous. Mmh. Parce que lorsque le gouverneur de Babylone nous a montré une immense carte de l'Irak, où on ne voit évidemment pas le Koweït, Koweït qui est une création, comme tout le monde sait, britannique ou américano-britannique des années 20-30, mmh. Le Koweït fait partie de la Mésopotamie, mais ça n'est pas du tout un pays, etc. Bon, donc ils ont fait l'erreur à l'époque. Ils ont été piégés, ils ont fait l'erreur, et ils l'ont payé très cher. Mmh. Et donc, ils reconnaissent eux-mêmes qu'à l'époque, ils avaient fait l'erreur d'envahir le Koweït. Mais maintenant, c'est plus du tout le même problème.
Non, mais là, maintenant, c'est un autre prétexte.
Voilà.
Maintenant, la situation consécutive à l'embargo, parce qu'il ne faut pas dire blocus, il faut dire embargo, ou le contraire, je ne sais plus. Enfin, il ne faut pas dire un mot qu'il ne faut pas dire, et l'autre qu'il faut dire, je ne sais plus.
Oui. Le résultat, c'est que le chlore n'arrive pas, parce que nous sommes allés visiter des hôpitaux, dont à Mossoul, nous sommes allés visiter le fameux laboratoire, dont je vais dire un mot, cité par Powell, qui fabrique des médicaments, et puis un hôpital. Alors, le laboratoire, on a vu un laboratoire qui, mon Dieu, fabrique tout, sauf des choses effrayantes, parce qu'on a vu la fabrication des médicaments, mais ce qui est vrai, c'est que, et qu'il faut savoir, c'est que les trois quarts des machines sont arrêtées parce que il n'y a pas les pièces détachées qui sont bloquées par l'embargo. Et donc, ils prennent de la main-d'œuvre manuelle pour remplacer les machines qui ne peuvent pas sortir, les colires et un certain nombre de médicaments dont je ne suis pas technicien des médicaments. Mais enfin, nous les avons vus sur place et ce laboratoire ne fabrique tout sauf des gaz de combat et des... Bon, alors on nous dit, oui, mais... J'ai lu ça. Oui, mais dès que les inspecteurs de l'ONU, ne pas confondre avec nous, nous n'étions évidemment pas ça, mais dès qu'ils sont partis, ça y est, ils reviennent à l'intérieur du laboratoire, ils sortent des trucs de sous terre, et puis non mais c'est la folie quoi. Bon alors de même qu'on a inventé des soi-disant des laboratoires montés sur plateforme mobile, qui dès que les inspecteurs quitteraient les sites reviendraient. Enfin bon non c'est du délire.
Ouais. Donc finalement vous prenez pas très au sérieux les déclarations de monsieur.
Non seulement pas au sérieux, mais c'est une mystification complète.
Et est-ce que les Irakiens, eux, sont certains qu'ils vont se faire ratonner ou est-ce qu'il y en a qui...
Alors les Irakiens sont persuadés à 80% que la guerre va éclater. Ils sont déterminés. Et les Américains arriveront sûrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils occuperont, ils iront prendre les puits pétroliers, ils font tout ça. Mais ça va leur coûter très cher. Et puis, moi j'ai entendu de nombreux Irakiens, depuis les ministres de Saddam jusque dans les souks, dire « et les Américains peuvent préparer beaucoup de body bags ». Les body bags, ils peuvent en préparer beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et ça, je crois c'est qu'ils s'en foutent les Américains parce que moi j'ai toujours eu l'impression que en fait les corps expéditionnaires qu'ils envoyaient, il n'y a qu'à voir la composition, il n'y a qu'à étudier la couleur générale des problèmes, ça leur permet de se débarrasser d'une population dont ils ne sont pas absolument convaincus qu'elle est très utile de l'autre côté de l'Atlantique.
Je ne vais pas hésiter à utiliser un terme qui en choquera peut-être, mais je crois sincèrement qu'ils se comportent en bandits, les Américains. Là.
C'est-à-dire qu'ils envoient des nègres se faire tuer par les Arabes, et s'ils peuvent tuer quelques Arabes en échange, les bons WASP considèrent qu'ils ont gagné sur toute la ligne. Ça durera peut-être... Oui. Quand je dis les WASP, d'ailleurs, il faudrait l'étendre. Mais je pense que ça durera peut-être moins longtemps que les impôts, ce genre de truc, parce que c'est vrai, quand on regarde l'évolution de la population américaine, on s'aperçoit qu'ils ont exactement le même problème qu'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont submergés par des populations qui sont d'une autre culture. Les Américains blancs et protestants sont en train d'être submergés par les hispano-américains et par les afro-américains, de la même manière que les Israéliens sont en train d'être submergés par les Arabes, palestiniens et israéliens aussi. Et donc, la seule solution dans ce cas-là, c'est la solution qui a été prévue par je ne sais plus quel professeur d'histoire israélien qui vient de faire une déclaration en disant que si on continue à les emmerder, ils allaient nous envoyer leurs missiles sur les principales capitales européennes car ils ont les moyens de le faire, ne serait-ce que pour venger l'Holocauste. ce qui montre que vraiment la vengeance n'est même plus un plat qui se mange froid, c'est carrément un plat qui se mange avarié maintenant. Et donc l'objectif, c'est effectivement le seul moyen de survivre à cette submersion démographique, c'est d'arrêter la submersion démographique.
Autrement dit,
de commettre ce qu'on appelle un génocide en français.
Voilà. Et alors Holocauste est une bonne transition parce qu'il y a un point très important, c'est que à la télévision irakienne, qui est satellite et qui est vue par 100 millions d'Arabes, on nous a posé la question suivante: ne croyez-vous pas que Israël est derrière tout ça? Et en fait, il ne donnait pas le mot, même le nom même d'Israël, il parlait du lobby sioniste. Et les Irakiens pensent, et de mon point de vue, ils ont raison, ils pensent que une des deux causes de cette va-t-en-guerre des États-Unis, c'est la question d'Israël. Et c'est le lobby israélien qui pousse les États-Unis. Enfin, bon, c'est une des grandes raisons.
Il faut dire aussi que parmi les gens qui. Il est urgent de changer le matériel. Justine, parce qu'on vient de. On a presque perdu.
Je ne suis pas la cause de cet accident.
Ce n'est pas l'émotion qui m'a.
On a presque perdu. La première victime de la guerre, ça aurait été Maître Paul Wagner.
On appellerait cela victime collatérale.
C'est un maître du barreau victime de sa chaise.
Nous avons été reçus à Karbala par le grand moufti. Alors ça, c'est très important parce que le grand moufti de Karbala, c'est là où il y a la fille du fils du prophète, là, Ali. Et à Karbala, le grand moufti, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2 du monde de l'islam. Il y a le recteur au Caire, et après, le numéro 2, c'est le grand moufti de Karbala.
Et alors, il a eu
un discours extrêmement violent, pas contre nous, parce qu'il aime bien les Français, etc., mais discours très violent, anti-américain, disant que le Satan américain, sont les termes exacts employés, dès qu'il posera le pied sur le territoire irakien, il déclenchera la djihad. Et c'est quand même le personnage, le numéro 2 de l'Irak, c'est le numéro 1 religieux, et c'est le numéro 2 derrière Saddam.
Je l'ai dit, entre nous, je crois que ça c'est vraiment des paroles verbales, parce que ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu aucune... La solidarité des pays arabes et de l'islam, c'est une invention pure et simple, c'est pour faire peur aux petits-enfants le soir, parce que je me souviens très bien de Septembre Noir, où on avait annoncé que le Dar el-Islam allait se soulever comme un seul homme pour défendre les camarades palestiniens qui étaient en train de se faire tamponner d'importance, et puis personne n'a bougé, et on les a laissés bel et bien crever. Donc, de même que quand l'Égypte a pris la pâtée, personne n'a bougé, de même que chaque fois qu'il y a eu une guerre contre les Arabes, personne n'a bougé, de même que quand les talibans ont été attaqués en Afghanistan, personne n'a bougé dans le monde entier. Je ne crois pas du tout à la solidarité de l'islam, pas une seule seconde. Parce que les intérêts sont trop divergents. Aussi parce qu'il y a les chiites d'un côté, les sunnites de l'autre, ils se détestent plus entre eux, bien entendu. C'est à peu près comme les conciliaires et traditionnalistes chez nous. Ils sont beaucoup plus pressés de se foutre sur la gueule plutôt que de régler le problème avec les gens d'en face. Donc je crois que c'est vraiment... je comprends très bien que le grand mufti ait tenu ce genre de propos. Ça fait partie du cinéma habituel, mais je pense pas que ça aboutira à quoi que ce soit. Je crois qu'effectivement, si les Américains décident d'attaquer, ils vont attaquer, ils vont massacrer des centaines de milliers d'Irakiens. Et puis ensuite, ils vont être obligés. C'est ça qui va être le plus pénible pour eux, c'est qu'après, ils vont être obligés de se maintenir, parce que c'est pas le tout d'écraser un pays depuis des avions avec des missiles. Ensuite, il faut faire ce que les Romains faisaient, c'est-à-dire occuper le pays. Et là, c'est la fin de la rigolade, parce que le zéro mort, ça marche pas dans ce cas-là. Ils vont avoir exactement les problèmes qu'ils sont en train de connaître en Afghanistan. Personne n'en parle, mais tous les jours, il y a deux ou trois Américains qui vont au tapis. Hein. Et il y a des attentats, et on en parlait tout à l'heure hors micro. Récemment, il y a eu la visite de je ne sais qui chez le président du Parlement afghan. Ben, le pays est tellement pacifié qu'ils ont fini la visite planqués dans un bunker par crainte des missiles qui leur
tombaient. C'était le ministre de la guerre d'Allemagne.
Voilà. Donc,
allemand.
Soi-disant, l'ordre règne à Kaboul. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui règne à Kaboul, mais en tout cas, quand on y va, il faut savoir qu'il vaut mieux avoir un casque lourd. Hein.
Serge, il nous tombe... oui, appelez-moi Victoria. Bien sûr, des messages par dizaines, 50 ou 60 déjà. Beaucoup n'ont pas de rapport avec le sujet qui nous occupe. Il y en a quand même une trentaine sur l'Irak. Alors, il faut en remercier les auditeurs et leur demander pardon de ne pas pouvoir tous les lire. J'ai sélectionné le plus rigolo. Pourquoi la bande de Serge de Bekech ne va-t-elle pas en Irak servir de bouclier humain, comme l'ont fait de nombreux occidentaux? Soyez cohérents. Émission très intéressante.
Je ne vois pas pourquoi j'irais en Irak servir de bouclier humain aux Irakiens.
Dans la cathédrale de Bagdad.
Je ne sais pas si ma présence là-bas serait de nature à dissuader les Américains de m'envoyer des bombes. J'en suis pas certain. Je crains fort qu'ils s'en foutent.
Serge, si vous vous placiez dans le cœur de la cathédrale de Bagdad, parce qu'on citait le grand moufti à l'instant, mais il se trouve par un autre hasard que l'Irak est le seul pays arabe où vivent en harmonie, en bonne intelligence, de nombreuses communautés chrétiennes. Le premier ministre Tariq Aziz est chrétien, Saddam Hussein est d'origine chrétienne. C'est le seul pays où les chrétiens ont des monuments, des cathédrales, dans plusieurs villes du pays. Et comme par hasard, c'est celui-là qu'on veut détruire.
Alors, oui, absolument, 18%.
Attendez que la loi Lelouch soit votée, vous allez voir si vous pouvez.
Elle est votée.
Bon, bah, alors,
elle a été publiée le 4 février.
Mais je confirme, 18% de chrétiens, 82% de musulmans.
Nous avons Madame Le Pen au téléphone. Je chausse mon casque, parce que c'est une façon de parler, mais à propos de l'Irak, c'est le moindre des choses. Madame Le Pen.
Bonjour, Pierre.
Bonsoir, madame. Voilà, alors, vous avez conduit une délégation d'enfants d'Irak donc en Irak, bien entendu, il y a quelques jours. Le colonel Duro vient de nous raconter brièvement ce qui s'était passé. Et vous avez rencontré, vous, le chef des inspecteurs, je crois. Vous avez rencontré Hans Blick?
Oui, j'avoue que pour une fois, notre mission, qui nous laisse toujours un souvenir amer, et là particulièrement devant nous, la mort d'un enfant qui aurait tellement pu être sauvé en France à cause d'un inhalateur, d'un ventilateur de poumon qui n'existait pas, enfin qui n'avait pas de pièces détachées. Donc tout ce genre d'anecdotes, je ne les raconte plus car elles sont légion. Mais pour une fois, au lieu d'avoir de terminer sur cet horrible souvenir d'un pauvre enfant mourant, et Eric vous en a peut-être parlé, dès le lendemain, alors que nous étions en train de quitter l'hôtel, nous avons appris par la presse que Hans Blix résidait dans notre hôtel. Alors je me suis précipitée. J'ai aidé par mes amis qui ont franchi les obstacles. J'ai insisté, je me suis dit, tant pis, j'ai perdu un peu de ma dignité, mais ça n'a pas d'importance d'avoir un tel malheur. Et j'ai demandé qu'ils nous reçoivent. Et voyez, rien que d'en parler, c'est très dur. Il ne voulait pas. Et puis finalement, on lui a dit, mais c'est une dame simplement qui a fait une association pour aider les enfants, la pauvre population, et aller voir les hôpitaux et amener quelques secours. C'est pas une politique, c'est pas une femme d'influence, c'est une femme qui a une association et qui veut vous parler. Bon, alors, il a cédé, il a dit, bon, mais tout le monde, vite, 5 minutes. J'ai 5 minutes, il avait juste le temps de déjeuner et de repartir à la conférence que nous voyons d'ailleurs tous dans les journaux le lendemain, la dernière conférence avant de quitter Bagdad. Et donc, on s'est précipité dans sa chambre, nous étions trois, et je lui ai dit, Monsieur Blix, il m'a fait comprendre qu'il ne parlait qu'anglais. Je lui ai dit, ça va être dur, mais je vais vous dire l'essentiel. J'aime cette population, j'aime ces enfants, je les ai beaucoup vus souffrir. Et mon Dieu, il reste un espoir, c'est vous. Vous êtes un homme qui nous semblait de bonne volonté. Essayez de trouver plus dans le sens de ne pas trouver d'armes. Mon Dieu, si vous pouviez faire ça, plutôt que de chercher à en trouver absolument. Bref. Faites ce que vous pouvez. Et tout d'un coup, on a eu la surprise formidable de voir cet homme changer d'expression, s'approcher dans son fauteuil, et il nous avait demandé 2 minutes, et rester 20 minutes à nous parler en français, parfaitement français. J'ai vu qu'il avait été touché, qu'il avait compris qu'on n'était pas là pour faire un calcul quelconque, mais pour raconter ce qu'on avait vu, et pour intercéder pour ses pauvres enfants. Et il a écouté avec beaucoup d'humanité. J'ai trouvé un bon regard. D'ailleurs, sur la photo, on s'en rend compte. Parce que oui, il ne voulait pas de photo, bien sûr, c'était un entretien privé. Mais notre ami Elie Atem, qui d'ailleurs connaît Boutros Ghali et qui lui a proposé l'arbitrage éventuel de Boutros Ghali, et il n'a pas dit non, a insisté pour une photo. Et nous avons vu une photo avec lui, un bon sourire. Et j'ai confiance en cet homme. J'espère que nous n'avons pas... Et alors, nous n'avons pas mal placé nos espoirs. Et alors, je lui ai offert mon livre, ça c'est accessoire, mais c'est pour dire que j'ai voulu qu'il sache un petit peu ce qu'on peut voir là-bas quand on va dans les hôpitaux. Je lui ai parlé aussi de ce que nous avions vu, et j'ai bien vu à son expression qu'il n'y accordait pas plus de foi que nous-mêmes. Quand on a parlé de la photo par satellite, quand on a parlé des écoutes téléphoniques, il a levé les yeux au ciel. Il a dit, écoutez, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Bien sûr. mais nous cherchons le reste, car ça peut toujours, on ne sait pas. Il peut y avoir, je dis oui, bien sûr, chacun de nous peut avoir dans sa cuisine une bonbonne avec un gaz mortel. Je veux dire, c'est tellement difficile à prouver. Alors il a levé les yeux au ciel, il a eu l'air un petit peu d'être dépassé par la question technique que nous ne posions pas, mais que nous évoquions. Et puis, on a continué la conversation sur ce que nous avions vu, entendu. Enfin, on a parlé 20 à 25 minutes.
Apparemment, donc,
pour une fois, pardon,
il vous a donné l'impression d'un homme à la fois courageux et honnête.
Oui, tout à fait. J'ai appris que c'était un homme de 72 ans qui avait peut-être envie de faire autre chose que de trapahuter dans des villes difficiles, dans des paysages et dans des avions continuellement. Mais il a dit qu'il irait jusqu'au bout et que moi, j'ai presque imaginé. Je me suis dit, cet homme va être comme deux autres qui avaient démissionné. Vous vous souvenez, hein, Bonnec et l'autre, qui avait démissionné. Non, c'est Scott Ritter qui avait démissionné. Et je me suis dit, cet homme va peut-être être révolté, il va démissionner aussi. Il a dit, non, nous continuons, nous avons demandé une extension et nous allons continuer. Enfin bref, pour une fois, nous avons quitté amicalement, gentiment et avec un tout petit peu d'espoir que cet homme arrivera à prouver la non-malfaisance de ce pauvre pays soumis à... Alors oui, je dois rajouter une chose, parce que... Et il m'a dit, oui, mais n'ouvre pas tous leurs dossiers, n'ouvre pas toutes leurs portes, on a des difficultés à obtenir des renseignements. Et je lui ai dit, mais avez-vous pensé, M. Dix, que ces gens sont humiliés profondément depuis 12 ans, espionnés, on regarde dans leurs poches, dans leurs tiroirs, partout, je sais pas, ça doit avoir quelque chose de tellement frustrant, tellement vexant, que peut-être ils ont des réticences. Et il a dit, oui, d'ailleurs, je reconnais que je l'ai ressenti et que j'ai demandé à mes inspecteurs de tout faire pour ne pas le faire de façon humiliante. Voilà, donc ça, je peux témoigner de ça. Voilà la conversation que nous avons vue.
Je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui est exceptionnel parce que personne n'en a parlé jour, je crois.
Oui, on a insisté. Qu'est-ce que vous voulez, on a insisté. Il se trouvait qu'on était là, on prenait l'avion 2 heures après. Le hasard, en fait, Dieu, le hasard, je ne sais pas, la fatalité, c'est merveilleux. On a pu avoir un contact et partir de là avec le brin d'espoir que nous n'avions pas 2 heures avant.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Enfin, Madame Le Pen. Enfin. Eh oui, exceptionnel témoignage. Oui. Je pense que si on avait des radios et des télévisions normales en France, Jeannie Le Pen aurait dû être interviewée.
Être entendue, c'est certain.
Quand même
c'est
extraordinaire. Ça, parce enfin, quel pays, mais comment est-ce qu'on peut être à ce point désinformé, complice d'une désinformation, qu'il n'y ait pas un seul journaliste de la grande presse, des grands médias audiovisuels qui pensaient à poser la question à Jeannie Le Pen? C'est effrayant. C'est vraiment des larmes.
C'est parce qu'elle a parlé avec beaucoup d'humanité. C'est pas possible.
Humain et Le Pen sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, comme chantaient les Beatles. Non, c'est pas ça que je chantais.
Ici, Londres. Le français, parle-t-on français.
Non, mais je peux témoigner qu'elle a, puisque j'ai quand même été à côté d'elle pendant 8 jours, c'est vraiment, elle ne doit plus écouter, là. Mais enfin, c'est une femme de grand cœur. De grand cœur, et quand il y a eu cet enfant irakien qui est mort parce qu'il y avait un manque de matériel, et qui est mort sous nos yeux, avec la mère qui était sur le corps de l'enfant, etc. Bon, Jeannie était en larmes à côté de la mère, et c'était pas du chiquet, hein, vraiment.
Merci mon colonel d'être venu en avant-première parce que je pense que maintenant vous allez être reçu sur tous les médias.
Non, sûrement.
Donc, vous avez réservé la votre première
beaucoup,
visite.
Oui. On peut revenir une seconde aux oeuvres pontificaux parce que parmi la cinquantaine de messages qui vous ont adressés, il y en a un qui m'a attiré l'œil. On conteste la qualité d'aumônier du père Algouache en disant c'est le père de Duras que je sache, nous dit un auditeur, qui est l'aumônier des Zouaves.
Duras que je sache.
Il y a un aumônier en titre qui est l'abbé de Duras qui descend lui-même de 2 Zouaves pontificaux, et il y a un aumônier d'honneur et assistant qui est le père Argouache, dans son œuvre magnifique de Riomont, accorde beaucoup d'importance à l'épopée des oies pontificaux, parce que dans la formation des scouts de Riomont, dans la formation des jeunes de Riomont, le père Argouache, à juste titre, considère que c'est quelque chose de très important.
C'est quand même la seule école dans laquelle on dit aux enfants, bon alors vous allez vous décider à faire les oies, oui ou non?
Absolument.
Bien, merci, merci encore. Beaucoup. Merci, mon colonel.
Merci de m'avoir accueilli.
On peut préciser que Duras était un pseudonyme pour l'écrivain Razoir et que son vrai nom, c'est Amour de Dieu, si ça peut.
Oui, mais elle, on peut dire aussi qu'elle n'était pas du tout aux manières de.
Non, qu'elle était un vrai zouave, mais pas pontifique. Hein, oui.
Maître Éric Delcroix, maître Jean-Paul Wagner, merci d'abord d'être venu à ce micro, parce que c'est d'abord deux générations, deux représentants, deux des plus brillants représentants de deux générations du barreau.
Oui, moi je, même, vous savez que je n'en suis plus.
Vous n'en êtes plus.
Je suis en retraite.
Ouais. Bon, il n'y a pas de retraite.
En retraite, mais...
Vous êtes d'honneur quelque chose.
Oui, d'accord, mais ça ne m'a pas empêché de lire avec beaucoup d'intérêt le livre d'Éric Delcroix et de participer par le souvenir à beaucoup des affaires qu'il raconte et que j'ai vécues comme lui, près de lui.
Alors, moi, ce qui m'intéresserait, vous voyez, c'est, en général, on demande à l'auteur de parler de son livre, il le fait très mal. Enfin, il le fait très mal. Bon, je sais bien que Maître Delcroix ne le fera pas très mal, mais je trouve que c'est peut-être plus astucieux de vous demander à vous d'abord de parler de ce livre, parce que vous pourrez en dire tout le bien.
Oui, j'en dis beaucoup de bien, parce que c'est vraiment une somme, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est d'abord une étude théorique et que c'est en même temps une étude théorique qui est nourrie de tous les combats qu'Éric Delcroix a menés, ou qu'il a vu mener, et qu'il a suivi toujours avec une grande attention depuis le début, on peut dire.
Oui, il faut la loi 72. Ça s'appelle le théâtre de Satan. Alors je vous interromps une seconde pour demander, et puis après je vous poserai la même question, enfin d'une façon un peu différente. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Éric Delcroix ?
Alors j'ai choisi le titre Le théâtre de Satan parce que le théâtre de Satan, pour les historiens, et notamment des spécialistes des procès en sorcellerie d'autrefois, qui est M. Muchenbled, le professeur Muchenbled, le théâtre de Satan, pour les historiens, c'est toute cette mise en scène qui permettait autrefois à la justice de faire un procès en sorcellerie avec rien du tout, et on en revient là, c'est-à-dire que le procès aujourd'hui se détache de plus en plus de l'objectivité des faits pour aller faire une inquisition des consciences, pour savoir si vous êtes un vilain raciste, pour savoir si vous avez des arrière-pensées pécheresses, pécamineuses par rapport au système de la morale absolue, antiraciste et antidiscriminatoire.
Citoyenne, n'oubliez pas citoyenne. Comment l'aviez-vous compris avant de lire le livre? Parce que naturellement, une fois que vous...
Le théâtre de Satan. Oui. Oh ben, sachant que c'était Éric Delcroix qui le signait, je voyais bien où il voulait en venir, et je ne pouvais pas lui reprocher d'en venir là. Encore que sur certains points d'analyse, je ne serais pas tout à fait d'accord avec lui, notamment lorsqu'il parle du chaos judiciaire et juridique de l'Ancien Régime. Là, il va reconnaître mes sentiments.
Mais là, vous avez un monarchiste et un républicain.
Je pense, si vous voulez, mais enfin, ça, c'est une question d'analyse, si vous voulez. L'essentiel de son travail est tout à fait nécessaire à connaître, à lire, à répandre, parce que c'est véritablement le cheminement progressif, car ça s'est fait progressivement à partir de la loi 1972, vous appelez ça l'achat ?
Oui.
De la chape de plomb qui, en effet, peu à peu, se répand sur les esprits, sur les pensées, sur les médias qui ont changé leur langage, sur les politiciens qui ont changé leur langage à partir de l'application de cette loi sur le racisme, appelant d'ailleurs racisme ce qui n'en était pas, puisqu'on appelle racisme la discrimination fondée sur la nation ou la religion, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Et puis, finalement, aboutissant, ce qui est peut-être plus grave encore, à interdire d'écrire l'histoire et de connaître la vérité historique à peine de poursuites qui sont de plus en plus sévères et qui désormais, c'est l'affaire Plantin, peuvent mener ceux qui se risquent à dire la vérité jusqu'à être incarcérés.
Mais l'impression que j'ai eue quand j'ai vu le titre, je ne parle pas de la lecture du livre, mais le titre, je me suis dit au fond, ça reproduit... Ça traduit exactement ce que j'ai vécu chaque fois que j'ai été, c'est-à-dire quand même des quelques trop nombreuses fois, chaque fois que j'ai été appelé à participer à cette formidable mascarade qu'on appelle la justice. Et j'ai toujours eu l'impression d'assister à effectivement une séance de théâtre et de théâtre satanique, parce que j'avais l'impression que tout le système était une mise en scène avec des petits démons, chacun à sa place, depuis les gendarmes jusqu'au président jusqu'au ministre de la Justice ou jusqu'au président du Conseil de la magistrature. On sent que tout le monde est à sa place, tout le monde avec son petit costume, tout le monde avec les attributs de sa fonction, chacun fait son boulot absolument avec un mépris absolu pour les faits, une indifférence totale aux personnes, mais on sait que on doit arriver à quelque chose et que on va donc faire semblant, de même qu'une pièce dans le théâtre, on sait qu'on doit arriver à la conclusion de la pièce. Il ne s'agit pas de revivre, d'imaginer que, par exemple, Chimène d'un seul coup va décider que non, Rodrigue n'est pas à son goût et elle va préférer quelqu'un d'autre. Non, on sait bien que de toute façon, on aboutira à la fin du Cid, comme le Cid a été écrit par son auteur. Et devant les tribunaux, j'ai toujours eu cette impression d'être embarqué comme une espèce de figurant demi-muet, quand on voulait bien me donner la parole ou comme on m'incitait à marcher sur place en brandissant des halbardes. Mais il n'était pas du tout question de s'intéresser à ce que j'avais à dire, à ce que pour ma défense. Le système se déroule et c'est vraiment un théâtre, c'est une pièce écrite avec des dialogues pré-écrits où chacun joue son rôle.
C'est peut-être, je ne sais pas si Éric Delcroix sera de mon avis. Il faut peut-être avoir une certaine indulgence pour les juges en pensant que la faute première, c'est quand même la faute du législateur. Car le législateur a commencé par voter la loi de 1972, la loi qui est au départ de tout ça, dans la nuit, à main levée, car il n'y a pas eu de scrutin public. Personne ne sait qui a voté pour, qui a voté contre. Et les choses ensuite ont évolué, mais évolué tout de même à partir d'un texte de loi.
Oui, mais les magistrats gardent toujours leur liberté. Un magistrat pourrait dire, moi, cette loi me paraît inique.
Oui,
par conséquent, je vais systématiquement
prononcer des relaxes. Personnellement, c'est un peu mon expérience. Elle a été très différente suivant que j'ai plaidé à Paris ou en province. Je pense que pendant certains temps, notamment à la 17e chambre du tribunal, je ne sais pas si vous serez de cet avis, Éric Delcroix, on avait quand même des magistrats qui s'efforçaient de faire une interprétation.
Sur les 10 premières années d'application de la loi de 72, ils freinaient des quatre fers. Et quand ils devaient punir, il faut reconnaître que les sanctions étaient assez bienveillantes.
Assez bienveillante. Il y a donc eu, si vous voulez, une volonté de freiner, mais cette volonté de freiner s'est heurtée à des appels, s'est heurtée à une jurisprudence de plus en plus stricte, de plus en plus sévère, et finalement on en est arrivé à une situation qui est celle d'aujourd'hui, dans laquelle effectivement on ne vous demande plus, on n'essaye plus d'établir des preuves contre vous, c'est un peu comme en Irak. C'est plutôt l'absence de preuves, qu'est-ce que ça prouve ?
C'est ça.
Bon, voilà.
C'est-à-dire que maintenant, il y a à nouveau un mal ontologique. Ce mal est l'immoralité absolue, et cette immoralité absolue, ce sont les idées nationales ou identitaires. Et par conséquent, on voit que la justice est instrumentalisée aujourd'hui, alors que ce n'est pas le cas vis-à-vis des idées de gauche, est instrumentalisée contre les idées de droite, et qu'elle est maintenant la machine des héritiers de mai 68 pour détruire toute pensée, tout sentiment, car on vous punit également pour vos sentiments.
La xénophobie, par exemple, est un sentiment.
La xénophobie est un sentiment. La provocation à la haine, qu'est-ce que la haine ? En tout cas, c'est un sentiment, et allez le définir. Ensuite, il faut faire l'inquisition des consciences pour savoir où on en est. Voyez qu'il y a une illustration extraordinaire de mon théâtre de Satan, c'est la loi Lelouch qui vient de sortir, puisque elle est du 3 à l'unanimité des deux chambres, elle est du 3 février, elle a été publiée au journal officiel du 4, qui fait une circonstance aggravante des intentions à raison de l'appartenance, de la non-appartenance vraie ou supposée d'une victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Alors c'est extrêmement grave parce que la conséquence, c'est que alors que pour les aggravations, jusqu'ici, le juge devait faire appel à des constats objectifs. Oui ou non, lorsque vous vous êtes battu, vous avez brandi une arme. Ça, c'est un élément objectif. Est-ce que vous avez un objet qui peut servir d'arme? Est-ce qu'on peut contrôler cet objet, le définir, le saisir et l'observer? Par conséquent, jusqu'ici, les cas d'aggravation, même dans le nouveau code pénal, étaient, somme toute, objectifs. Avec la loi Lelouch, on va pouvoir avoir des aggravations à raison des sentiments. Ils disent à raison, c'est en raison. On n'est pas là pour compter. Il y a une pratique en français qui est assez chaotique.
Ah bah c'est...
Alors, on va faire l'inquisition de l'âme de l'auteur d'un acte pour savoir si au fond de son cœur ou dans son œil, il y avait une lueur de racisme. Monsieur le Président, j'ai bien vu qu'il y avait une lueur de racisme. Et alors, les conséquences, je vais vous dire une conséquence pratique terrifiante. Hein. Article 222.13 du nouveau code pénal, du code pénal actuellement en vigueur. Sur les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, ou en tout cas moins de 8 jours d'incapacité de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de cause aggravante, une rixe entre deux hommes, et aucun des deux n'est blessé de façon supérieure à 8 jours d'arrêt de travail. Bien, ça relève du tribunal de police, et c'est, je parlerai en francs, 1300 francs d'amende, point final. Alors que s'il y a une lueur de racisme dans l'œil de l'un des deux, eh bien... Tenez-vous bien, c'est 3 ans de prison et 300 000 francs d'amende. Ça n'a plus rien à voir. Si bien que dans une rixe, entre un immigré ou un sans-papier et un blanc réputé facho, c'est très clair. L'immigré, lui, passera au tribunal de police et prendra au maximum 1300 francs d'amende, alors que le vilain blanc de français pourra prendre 3 ans de prison et 300 000 francs d'amende pour exactement les mêmes actes, parce que dans l'œil du facho français, dans l'œil du français de souche, il y avait certainement une petite lueur de haine raciale.
Cher maître Delcroix, c'est pas nouveau, parce que je pense qu'en 43, par exemple, si un Français avait mis une paire de claques à un Allemand et que l'Allemand lui est rendu, le Français aurait été sévèrement puni, et c'est probablement beaucoup plus sévèrement puni que l'Allemand. C'est la tradition pour la justice collabo, c'est quand même de maintenir une différence visible entre l'occupant et l'occupé. Parce que sinon, c'est le désordre qui s'installe, vous comprenez?
Mais c'est exactement l'illustration. Il faut que les Français n'aient plus d'idées ni de sentiments à eux.
Qu'est-ce qu'on a fait aux magistrats de la collaboration au moment de l'épuration, Maître Wagner?
Il y en a un certain nombre qui ont été épurés, puis les autres se sont assis à nouveau sur le siège, et ils sont passés aussi secs du côté des épurateurs.
C'est pour ça qu'on avait besoin d'eux.
C'était d'ailleurs en général les plus sévères. Ils avaient quelque chose à se faire pardonner.
Ça plaide en faveur des lunettes de soleil qu'on n'enlève pas. Moi, on m'a appris que quand on parlait à quelqu'un, il fallait enlever ses lunettes de soleil. Là, on a envie de les garder.
Pour pas que la petite lueur de racisme soit visible.
Ah non, c'était pour voir tout le monde dans la même
lueur. Il n'y a pas que la lueur dans les yeux. Il y a le fait que vous arrivez quand même, si vous êtes, par exemple, le rédacteur d'un journal tel ou tel, n'est-ce pas, ou d'un quotidien, ou d'un hebdomadaire tel ou tel.
Il y a par exemple un journaliste de Tribune Juive qui battrait un arabe dans la rue. Il pourrait jusqu'à avoir des
gros
problèmes.
Exactement, parce que là, même si vous avez vos lunettes de soleil, vous aurez quand même contre vous un préjugé, n'est-ce pas ? Et donc vous aurez du mal à vous défaire.
Ouais. Je crois que même comme simple abonné, ça doit être pareil.
Mais pour revenir à la répression politique, aujourd'hui, les idées et les sentiments d'extrême gauche peuvent s'exprimer de façon totalement libre, et je trouve ça très bien. En revanche, celles de l'autre côté, appelez-les comme vous voulez, mais enfin de la droite radicale ou nationale ou identitaire, ne le peuvent pas.
Il y a 2 heures, nous passions avec ma délicieuse épouse devant un magasin qui s'appelle les Galeries Lafayette ou quelque chose de ce genre. Je vais chez les Galeries Lafayette tout le printemps. Enfin, et dans une vitrine, ma femme me dit, mais regarde, il y avait une statue en porcelaine de Mao Tse-Tung d'un mètre de haut, puisque c'est la quinzaine chinoise. Donc il y avait une statue de Mao Tse-Tung en porcelaine blanche, très belle d'ailleurs, fort bien faite. Et je dis, on va chercher maintenant la vitrine où il y a une statue d'Adolf Hitler.
Bien entendu.
Parce que, quand même, Mao Tse-Tung, Hitler, c'est, bon, il a, ce qu'il a fait n'est évidemment pas correct, mais enfin, Mao Tse-Tung lui en remontre très très largement. Il le laisse à des longueurs en arrière, au point de vue de l'assassinat collectif.
Oui.
Et on a cherché pas de statue d'Hitler. Je pense que ça serait mal vu de la part de la clientèle.
Mais non, c'est pour éviter l'adoration des foules.
Ah oui.
Ça serait une apologie de crime et vous passeriez à la 17. 7e chambre correctionnelle, et vous seriez condamné. Mahmoud Setung, ça n'est pas l'apologie du crime.
Des dizaines de millions de morts, des gens massacrés.
Appeler un lycée Robespierre, ça n'est pas l'apologie du crime, mais appeler un lycée ou bien dites dans un ouvrage scolaire que Brasillac était un écrivain très sensible, vous avez un scandale avec menace d'apologie du crime.
Ou écrivez au dos de la pochette d'un disque que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir de façon somme toute démocratique. Je ne pas dire qu'il a été élu par une majorité d'électeurs et vous vous retrouvez devant à la 17e. Alors que maintenant, tout le monde...
Plutôt pour Staline...
au moment du deuxième tour des...
Et Jean-Marie Le Pen a été condamné pour ça.
Il a été condamné pour ça.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment du deuxième tour...
Jean-Marie avait été condamné pour ça.
Absolument.
Exactement.
Je me souviens très bien de cette affaire. Et au deuxième tour, au mois de mai, j'ai lu dans 50 journaux, il faut faire attention parce que Hitler a été élevé, a été élu d'une façon somme toute démocratique. Méfions-nous du suffrage universel, disait chez... Donc, à un moment quand même...
Surtout quand il atteint les 80%. La suspicion.
Là, c'est une gag absolue, parce que quand on reproche à Saddam Hussein des scores de 95% et qu'on a chez nous un président qui a 82%, bon, étant donné qu'il y a probablement beaucoup plus d'analphabètes en France qu'en Irak, c'est pas très étonnant. Ils se sont trompés de bulletin, les gars. Cela dit, pour revenir à des considérations un peu plus sérieuses, j'ai cru comprendre que vous pensiez que la loi Lelouch, par exemple, c'était le départ d'une nouvelle ère. Mais moi, je vois ça beaucoup plus comme l'aboutissement d'un processus qui est... c'est pas le Guesso, c'est pas le commencement de quelque chose, la loi Guesso, Fabius. La loi Lelouch, c'est pas le commencement de quelque chose, c'est l'aboutissement d'un processus qui a été engagé depuis fort longtemps d'asservissement de la justice à des intérêts politiques et privés.
Oui, bien sûr, mais... Non, c'est vrai que c'est très avancé maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est extrêmement avancé. Mais ce qui est extrêmement choquant, c'est que maintenant, nous devons justifier auprès de la justice, et la loi Lelouch termine presque l'édifice, de la moralité antidiscriminatoire de nos pensées intimes. Par conséquent, ben oui, parce que selon que votre pensée intime aura été discriminatoire ou pas discriminatoire, vous pourrez être condamné plus ou moins. Il y a le vieil exemple qui remonte à la loi Pleven, mais qui maintenant s'est multiplié. C'est, vous vous rappelez, cette brave dame de Montpellier.
Oui.
Elle avait mis une petite annonce elle était logeuse, elle avait besoin de louer une partie de son appartement, elle cherchait un locataire catholique et français. À l'initiative du MRAP, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier. Par conséquent, non pas parce que on peut refuser de louer, car on peut refuser de louer son appartement à quiconque. En revanche, si on prouve que vous refusez de louer un appartement pour des raisons intimement discriminatoires... Eh bien, vous tombez sur le coup de la loi. Si vous essayez de louer votre appartement à Claudie Schiffer avec peut-être des rêves concupiscents, je ne sais pas, en refusant à un immigré coloré ou un musulman, eh bien, si on arrive à le prouver, vous tombez sur le coup de la loi. Par conséquent, ce qu'on vous reproche, ce n'est plus l'acte objectif de refuser de louer qui est l'infraction. Puisqu'on a le droit de ne pas louer. Mais en revanche, un même acte objectif va devenir ou non une infraction selon votre mobile intime. Et ça, c'est
supposé.
Bien entendu, puisqu'on ne pourra jamais le savoir. Et par conséquent, c'est une subversion considérable du droit. Et cette subversion considérable du droit porte atteinte à notre libre arbitre intime à chacun, car au fond, on devrait pouvoir refuser de se justifier auprès d'un juge qui devrait, lui, considérer qu'une infraction doit être objective. Et puis ensuite, il a la part de grâce, n'est-ce pas, pour savoir s'il met le maximum ou le minimum. Pour l'idéaliste, on devrait mettre le minimum, mais qu'il soit de droite ou de gauche, dans l'équanimité, alors que pour la fripouille, on peut pour émettre le maximum. Mais l'infraction, par exemple, de coups et blessures, l'infraction de vol, tout ce que vous voulez, doit être objectif. Or, maintenant, nous avons des tas d'infractions qui, soit n'existent pas s'il n'y a pas cette pensée intime pécheresse, immorale et discriminatoire, soit qui sont aggravées s'il y a cette pensée. Par conséquent, le juge est amené à faire cette inquisition des consciences.
Il y a quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, depuis longtemps, depuis toujours, les lois d'amnistie. Les lois d'amnistie réécrivent le code pénal, car toutes les infractions racistes ou dites prétendues telles ont toujours été exclues de l'amnistie.
Comme la loi Fabius-Guesso, d'ailleurs.
Et Éric Delcroix, d'autre part, dans son livre, se réfère à une suggestion du procureur d'Avenas.
Oui.
Qui est assez extraordinaire, car le procureur d'Avenas proposait une sanction assez particulière concernant les délits racistes. Il proposait qu'on ait une sorte de permis de vivre en société comme on a un permis de conduire.
Ah oui, je me souviens.
Et puis, on perdrait des points, si vous voulez, à chaque infraction qui serait relevée. Et je pense que quand on n'aurait plus de permis, et quand on n'aurait plus du tout, on aurait épuisé tous les points.
L'asile psychiatrique.
On n'aurait plus le droit de vivre en société, c'est-à-dire
l'asile psychiatrique.
À propos de Davenas, il y a des gens qui n'aiment pas les rouquins, c'est un délit, ça?
Alors, oui, je crois que ça peut le devenir aujourd'hui, oui, dans la mesure où ça se transmet par le sang. C'est la loi du sang qui devient criminelle, excepté, parce que nous sommes dans une société d'argent quand même, excepté en matière de succession.
Mais en fait, alors, quand Le Pen avait dit, en parlant de Maigret, il a fait allusion à sa petite taille, Maigret aurait pu le poursuivre, c'était pas encore
voté. Non, la taille, c'est
les petits,
encore... Oui, on peut encore les petits ou les vieux.
Petits ou
encore...
vieux, oui,
les femmes et les homosexuels.
Et les petits, les vieux et les petits vieux.
C'est-à-dire, si vous avez envie de traiter quelqu'un de petit PD, vous vous arrêtez à petit.
Voilà, exactement.
Vous pouvez dire petit.
C'est exactement ça.
PD, on peut encore.
Maintenant, la plupart des lois se sont très rapidement adaptées. L'orientation sexuelle. Donc, on n'a pas le droit de mettre en cause, dans la plupart des cas, l'orientation sexuelle, comme
c'est
on
gay.
Dit avec délicatesse.
Un progrès qui m'avait échappé. Pendant que vous toussez, Serge,
oui.
Je fais au moins une allusion à la bonne centaine de messages qui sont tombés. Encore une fois, je demande pardon aux auditeurs, surtout à ceux qui parlent de tout autre chose que du sujet qui nous occupe. La majorité...
Nous, on parle de ce qui nous plaît, ils peuvent bien parler de ce qui nous occupe.
Mais la majorité des auditeurs...
Alors que nous parlons du sujet. Hein.
Qu'en présence de 120 ou 130 messages, on sélectionne ceux qui nous permettent de faire progresser le sujet qui nous occupe. Alors voilà, si je comprends bien la loi de Louche, nous dit un auditeur, en rajoute une bonne louche sur la loi Guesso, je pense que c'est une bonne question, qu'on vient de l'effleurer. Et ensuite, il y a quelqu'un, un auditeur qui pense nous déstabiliser, le malheureux, en nous disant ceci. Monsieur de Bekech, partisan des colonies, oublie que dans les colonies françaises, lorsqu'il y avait une rixe entre un Européen et un indigène, la peine était 10 fois plus grande pour l'indigène que pour l'Européen.
Dans ce sens-là, c'est normal. Mais non, mais d'abord, j'ai jamais été partisan des colonies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, au contraire, je fais partie. J'étais Algérie française, mais l'Algérie n'était pas une colonie, c'était des départements français. Je suis absolument partisan de l'abandon de toute responsabilité de la France sur les colonies. Je veux dire, l'argument qui a emporté mon adhésion, c'est l'argument qui a été présenté, quand même incroyable, à mon âge, j'avais jamais pensé à ça. Olyndre, il y a 3 semaines, à ce micro, a eu un argument qui me paraît magnifique. Il a dit la chose suivante. Il a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on nous reproche à propos de l'Afrique? On nous reproche d'avoir pillé l'Afrique pendant un siècle. On a pillé l'Afrique. Voilà. Vous voyez, vous avez pillé toutes les richesses de l'Afrique. Et puis, il y a 40 ans, on est parti. Donc depuis 40 ans, ils auraient dû se refaire. Ça fait 40 ans qu'on arrête de les piller. Or, ils sont toujours aussi pauvres. Donc il y a un problème quand même.
Ils sont même plus pauvres.
Ils sont même beaucoup plus pauvres en réalité. Alors j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que c'était le pays qui n'était pas sain finalement. Parce que l'Afrique, quand on y est, ou on est voleur, ou on est paresseux. Et donc, il ne faut pas y aller. Voilà. Donc je suis absolument anticolonial, mais farouchement. Tiens, à propos de raisonnement génial, ça n'a rien à voir, mais l'autre jour, j'ai dîné avec un ami qui nous a... On était quelques amis, hein, et qui a dit en deux mots une chose. Il a dit, je vais vous démontrer que le pape ne croit pas. Alors ça nous a un peu intrigués. Oui, et il a dit la chose suivante. Et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Bon, il a dit, voilà, le pape, vous vous souvenez, au moment de l'attentat de Fatima, de l'attentat de Rome, il a dit tout de suite qu'il avait été sauvé par la Vierge. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Il a dit, premièrement, c'est la Sainte Vierge qui m'a sauvé. Et deuxièmement, il a fait acheter une voiture blindée.
Mais moi, je voudrais très brièvement rebondir sur le propos de cet auditeur. Effectivement, dans une conception où le droit n'est pas le même pour tous, d'ordre différent, comme cela a existé sous l'Ancien Régime, ou dans une conception d'occupation ou de colonisation d'un pays, on peut concevoir qu'il y ait plusieurs catégories juridiques et que les uns n'aient pas les mêmes droits que les autres. En France, nous sommes censés, que nous soyons de droite ou de gauche, faire partie de la même catégorie juridique. Or, ça n'est plus vrai, puisqu'il y a des gens qui n'ont plus les mêmes droits et qui sont surveillés jusque dans l'intimité de leur conscience par les juges. Et c'est la catégorie, en empruntant à Sartre, que j'appelle dans mon livre les salauds, et qui, même à la Cour européenne des droits de l'homme, se voit opposer l'article 17, que je ne vais pas vous lire ici, mais qui revient exactement à l'aphorisme de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Où se posait-elle ? J'apporte quelques réserves là sur ce que vient dire Éric Delcroix. Il y a quand même dans notre code des distinctions établies suivant la nature des individus qui sont victimes. Ne serait-ce par exemple que dans notre loi sur la diffamation, dans laquelle existait une distinction entre la diffamation à l'égard des personnes protégées,
oui,
et
exact,
à l'égard des personnes non protégées.
Absolument.
Et ce que vous avez cité tout à l'heure, à savoir les violences exercées, ce qui pouvait n'être qu'une infraction contraventionnelle à l'égard de certains, pouvait devenir une infraction correctionnel à l'égard de l'autre. C'est ce dont a été victime Jean-Marie Le Pen dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, car on a estimé que les violences qu'il avait exercées, il les avait exercées contre une dame mère dans l'exercice de ses fonctions, ce qui était d'ailleurs faux, car la dame en question était bien mère, mais elle n'était pas mère de la ville où la violence avait lieu, n'est-ce pas? Donc il y a une distinction qui peut se faire entre certaines catégories de personnes. Et personnellement, ça ne me paraît pas choquant qu'on protège la fonction, c'est pas la personne.
À condition que ce ne soit pas en raison des idées.
Bien sûr.
Et des sentiments.
Bien sûr.
Maître Wagner, vous qui, contrairement à Maître Delcroix, pour l'instant, mais ça ne saurait durer, avez une, en plus de votre carrière du barreau, avez un passé à la Chambre.
Oui.
Et comment expliquez-vous que des députés, dont on suppose sont des gens intelligents et honnêtes, puissent voter des lois qui, à l'évidence, sont des lois totalement stupides?
Je dois dire que ça a été pour moi une expérience très importante, très intéressante et très éducative. Car d'abord, je me figurais, par exemple, que les lois étaient réellement pensées, réfléchies, étudiées au sein de la commission des lois. Or, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça, d'accord ? Qu'en réalité, il y avait là des gens qui arrivaient, comme Jack Lang. Il arrivait, il déployait sur son bureau le journal Libération, il le lisait entièrement, et quand il l'avait lu, il le fermait, il partait, sans jamais intervenir dans le débat. À ma connaissance, j'ai jamais entendu Jack Lang faire une observation au sein de la commission des lois.
On sait maintenant où il faut aller quand on ne veut pas entendre Jack Lang. C'est déjà davantage.
Exactement. D'autre part, en ce qui concerne le vote, d'abord, il y a cette chose qui est extraordinaire à l'Assemblée, c'est que la plupart des votes ont lieu de nuit. Parce que les séances prennent vers 3h d'après-midi, mais il y a toujours des rappels au règlement, des demandes de suspension consécutives au rappel au règlement, et puis ensuite consécutive à la demande de suspension qui a été accordée, etc. Ce qui fait que généralement on aborde l'heure du dîner, on va dîner, et que les séances commencent de nuit. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ont la digestion difficile, qui vont se coucher, ce qui fait que la plupart des séances, du temps où j'y étais, se déroulaient entre veilleurs de nuit, n'est-ce pas ? Les lois en question sont des lois qui étaient votées par des veilleurs de nuit. Il y avait d'autre part...
Le veilleur de nuit, c'est le député qui détient les clés.
C'est le député qui détenait les clés, qui votait pour... Maintenant, ça peut plus se faire de la même manière. C'est
grâce au Front National, d'ailleurs. Grâce aux élus du Front National, il faut le dire.
Mais à cette époque-là, un bon veilleur de nuit pouvait voter pour 30 ou 40 personnes, si vous voulez, sans avoir aucun mandat explicite, mais avec la conviction de faire son devoir républicain.
Et citoyen.
Et insomniaque.
Et alors, j'ai eu un autre exemple, si vous voulez, de l'incohérence. Un jour, j'ai présenté à la commission des lois un amendement qui consistait à poursuivre l'incitation au terrorisme. Ça n'existait pas dans le code. Et mon projet, soumis à la commission des lois, a été repoussé à l'unanimité, sauf moi qui représentais le Front National. Le gouvernement, le lendemain, ayant vu quand même, ayant eu écho de mon texte, a trouvé qu'il n'était pas si mauvais, et a fait présenter le même au nom du gouvernement, où il a été approuvé à l'unanimité. Et le rapporteur de la loi, qui était M. Limousy, maire de Castres à l'époque, a d'ailleurs eu l'honnêteté de dire à l'Assemblée, je vous présente ici un projet qui a été repoussé hier à la commission des lois, parce que c'était M. Wagner qui l'avait présenté, mais qui a été accepté aujourd'hui parce que c'est moi, et par conséquent, ce projet a été voté. Il existe désormais dans l'article 24, ça doit être l'article 24, 6 ou 7, je dois dire que jamais il n'a été appliqué. Jamais on n'a engagé une poursuite pour incitation au terrorisme.
Quand quelqu'un dit
on s'est servi on toujours va faire la bombe de l'incitation suivante, c'est-à-dire l'incitation à la haine, etc.
Est-ce qu'on peut dire des parlementaires ce qu'on disait des augures à Rome, qui ne peuvent pas se croiser sans rire?
Ça peut se dire, à condition que ça se passe dans les coulisses, oui. Dans
ils savent qu'ils rire.
Oui, oui.
Est-ce que deux avocats peuvent, comme vous, peuvent croiser deux journalistes comme nous sans rire? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que nous exagérons, est-ce que nous délirons quand, à propos de cette évolution législative dont vous venez de parler, à propos aussi du fait qu'une grande puissance se prépare à anéantir un petit pays en invoquant le fait que son président prend des douches de sang ou arrache les bébés des couveuses, est-ce que nous exagérons, est-ce que nous vous faisons rire quand nous parlons d'une évolution totalitaire, c'est-à-dire paradoxalement, du fait que la démocratie mondiale prend des couleurs totalitaires à certains
égards. Je crois que le livre d'Éric Delcroix est une démonstration implacable.
C'est ce que j'appelle Mammon ou la chape.
Oui, c'est exactement ça. Vous voyez, progressivement, si vous voulez, une vérité officielle qui se répand, c'est-à-dire l'interdiction de dire autre chose que ce qui est admis, permis, et avec tous les moyens juridiques et légaux par les lois qui sont votées. Je serais curieux d'ailleurs de savoir si la loi Lelouch a été votée à scrutin public ou à main levée.
Pour l'instant, je ne sais pas encore.
J'ai l'impression que ça a dû être voté à main levée parce que... Enfin, ça serait intéressant parce qu'à main levée, on ne sait pas qui a voté.
Alors,
ce que vous dites, si vous voulez, je suis d'accord avec vous, mais je crois que les avocats sur ce point rejoignent tout à fait les journalistes honnêtes pour constater, si vous voulez, que nous entrons dans une phase
de
totalitarisme de la pensée.
Je veux que je fasse une aparté parce que j'ai vu sur les murs de Paris une affiche qui m'a empli de bonheur. C'est mon ami, le directeur du journal de Miguet. Qui couvre Paris d'affiches, et alors on lit cette phrase extraordinaire. Donc il y a Miguet, son journal s'appelle Bourse Plus, je crois.
Quand même pas.
Si, si. Et dessous, il y a, je vous jure que c'est vrai, Honnête le vendredi. Je vous regarderai, hein, il y en a des centaines.
Et pour les autres jours.
Alors évitez les autres jours, c'est tout ce qu'on peut vous dire. En tout cas, si vous devez absolument rencontrer M. Miguet, essayez que ça se passe le vendredi. C'est le bon moment.
Bon, Miguet a un ami, en tout cas, et c'est Serge de Beketch. Là, c'est un scoop.
Oui, ça c'est... Non, bah, écoute, personne n'a fait autant de pub au journal de Miguet.
C'est
que
très
moi.
Gentil, nous avons
J'étais abonné quand j'étais petit garçon. Oui, vous êtes aussi abonné au journal de Miguet?
Non.
Vous leviez la main.
Jusqu'à 77 ans, je regardais Tintin. Si le journal de Tintin n'avait pas été, n'avait pas disparu. Mais sur le totalitarisme, c'est d'autant plus vrai que précisément maintenant, on va jusqu'à sonder nos âmes. La société civile, à travers la justice et à travers aussi nombre de vos collègues, cherche à savoir quelles sont les arrière-pensées, si on a le droit de vivre, comme le disait...
Mais on parlait tout à l'heure de l'amnistie dont on exclu les crimes abominables.
Systématiquement, la loi Pleven et la loi Guesson sont exclus, alors qu'au XIXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il était de bon ton, au contraire, non pas de blanchir les casiers judiciaires des fripouilles et des voleurs ou des violeurs, mais de pardonner à ses ennemis politiques. Maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Dans une structure d'ailleurs tout à fait communiste, puisqu'on considère que les gens malhonnêtes sont des socialement proches.
Les peines de prison ont été supprimées pour tous les délits de diffamation, les délits de presse, sauf
loi Pleven et Guesso.
Et je peux vous dire qu'il lâche pas le morceau, puisque j'ai reçu pas plus tard qu'hier un commandement de payer d'un montant de 60 000 francs pour un crime abominable de contestation de crime contre l'humanité par parole, par action et par omission, bien entendu, en 1992. Je croyais qu'il m'avait oublié, sauf que j'étais, parce que depuis 92, il y a eu quand même quelques occasions d'amnistie à droite à gauche.
Pour vérifier qu'ils ont bien interrompu la prescription.
Ouais. Ah oui, parce que c'est... Ouais.
Je crois que c'est en 1984...
En tout cas, moi, j'ai interrompu la possibilité de payer.
Je crois que c'est en 1984 que vous vous êtes vraiment déchaîné, Serge. J'en profite, pendant que j'ai le crachoir, pour rappeler que Maître Jacques Vergès, décidément, Radio Courtoisie, c'est la buvette du palais maintenant, était ce matin sur Radio Courtoisie et a déclaré « Nous vivons une époque de lynchage moral ».
Oui, oui.
Le lynchage en famille.
C'est, quand même, c'est intéressant de voir que Maître Vergès, qui n'est pas précisément monarchiste, sauf erreur de ma part,
je parle sous le contrôle
de Maître Wagner.
Oui. Enfin, je ne crois pas, mais
non.
Là, je ne me permets pas d'entrer dans le fort intérieur de mon frère. Hein.
Merci.
En tout cas, il est d'accord avec deux éminents avocats qui, eux, ne sont pas précisément d'extrême gauche. Ça, je crois qu'on peut le dire clairement.
Ah oui, ça, on peut le dire clairement.
Bon, donc, il y a une unanimité du barreau sur la question de la totalitarisation de la société. Mais vous croyez vraiment qu'elle est applicable et qu'elle va être appliquée, cette loi Lelouch, dans l'État
où elle est ? Mais bien évidemment. Et moralement, elle l'était déjà. Regardez le cas de Michel Lajoie, qui est depuis 15 ans maintenant emprisonné parce qu'il a tenté bêtement à 20 ans, parce qu'il croyait que la guerre d'Algérie reprenait dans l'autre sens. Il avait mis une bombe artisanale dans un café maghrébin. La bombe a fait long feu. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu il semble même qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Eh bien, il a déjà fait un an de plus que Auberg et Knochen. Et on le laisse en prison avec perpétuité avec 18 ans incompressibles. Il n'y a pas moyen d'obtenir sa grâce. Quoi qu'il n'ait pas, il ait tué personne, il n'y a pas moyen d'obtenir sa grâce, manifestement parce que il a agi avec un esprit discriminatoire. Et d'ailleurs, les jurés normands avaient été complètement saisis de stupéfaction parce qu'il y avait une campagne orchestrée par les associations sycophantes, antiracistes, qui ont complètement sidéré ces braves jurés qui sinon auraient mis une peine normale, probablement de 5 ans.
Le crime inexpiable de Lajoie, c'est de ne pas avoir baissé les yeux.
Tout à fait.
Il a dit, bon, je suis en prison, d'accord, et il tient, c'est d'ailleurs héroïque.
Tout à fait héroïque.
Depuis 15 ans, il a une attitude absolument impeccable, il ne tolère rien, il ne laisse rien passer, il a fait des tas de procès à l'administration pénitentiaire.
Qu'il a gagné, bien souvent.
Il a gagné,
oui,
pour des trucs incroyables, notamment, il s'est battu contre
le droit de l'avocat dans la discipline, dans les prétoires disciplinaires des prisons, c'est lui.
Ah, c'est un personnage exceptionnel et je pense que ça, c'est ça qu'il paye. C'est ce qu'il paye, c'est pas tellement le geste qu'il a fait à 20 ans d'avoir posé une bombinette qui a foiré dans un café maghrébin ou turc, je crois.
Non, maghrébin. C'est à Petit Quevilly,
de ne pas baisser les yeux, de ne pas caler et de dire, vous pourrez me garder jusqu'au bout en taule, je continuerai à vous dire ce que j'ai à vous dire. Ça, c'est véritablement héroïque. Alors.
Mais ça rentre dans le cadre de la loi, justement, c'est ce qu'on lui reproche.
Alors, le deuxième recours en grâce, a disparu dans les sables depuis 18 mois. J'ai envoyé une lettre recommandée. J'ai toujours pas de référence, rien.
Oh, c'est effrayant. Bon, on a parlé autour de votre livre. On n'a pas, Dieu merci. Enfin, on n'aurait pas pu le déflorer parce qu'il fait quand même 500 pages minimum.
Oui, c'était. Ah,
mais on ne s'ennuie pas.
Ben merci.
Non, on ne s'ennuie pas une seule seconde.
C'est bien mon avis. Je dirais même que. C'est un livre dans lequel on trouve beaucoup de droit et de jurisprudence et que en général, ce genre de livres, j'avais la triste habitude de ne les lire que par moitié ou au tiers, hein, alors que le livre de mon confrère, oui, mais pas simplement par amitié pour lui, je l'ai lu en entier.
Et puis la jurisprudence est très très illustrée.
Oui, exactement.
C'est, chaque cas est illustré d'une façon vivante. C'est plein de références qu'on connaît, hélas, si j'ose dire.
Hélas, souvent, oui. Voilà.
Alors il est paru, il s'appelle donc Le Théâtre de Satan, qui est un titre magnifique, je veux dire, vraiment, un titre extrêmement fort, et il est paru aux éditions...
Ce sont les éditions de l'Encre.
De l'Encre. Dans la voilà. NCRE.
Ils sont 12 rue de la Sourdière, à Paris.
Rue de la Sourdière. Et puis, vous le présentez, je crois, très prochainement, j'avais écrit ça sur un bout de papier.
Eh bien, demain.
À la Librairie Nationale, c'est ça?
Oui, voilà. Oui.
Pardon, c'est la Librairie Nationale qui organise une présentation du livre à la Salle Lumière. Quel beau titre, quel beau nom de salle. C'est mieux que la Salle Ténèbres, quand même. Salle Lumière, 4 places Saint-Germain-des-Prés, on connaît, c'est au SEUN.
Oui, c'est juste en face, exactement en face de l'église.
Une grande et belle salle.
Donc, jeudi 13 février, demain, à 20h30, et c'est à donc 4 places Saint-Germain-des-Prés. Le titre, c'est « La diabolisation politique par la décadence du droit ». Et à l'issue de la conférence, Maître Delcroix dédicacera son livre aux personnes
bien
qui
entendu.
Auront l'excellente idée de l'acquérir pour la modeste somme de
24 euros.
Voilà. Merci Maître, merci à vous deux d'avoir pris la peine de vous déranger. Et je me tourne maintenant vers le marquis. N'importe quoi. Quel horreur, quel lapsus dramatique.
On a eu une conversation sur le sujet tout à l'heure, mais enfin, je me ferai discret.
Oui, il vaut mieux.
Bon, on va faire l'impasse sur la musique, on va gagner du temps.
Non, ah bon. Puis vous viendrez. On le fera en deux volets.
Si ah, bah, très bien. Alors.
Eh bien, mon cher Marquis, après cette introduction musicale prolongée, parce qu'il a fallu faire basculer le barreau dans le studio.
Bien, ben, je voulais d'abord vous remercier et vous féliciter. Tout le monde dit que vous avez eu une bonne idée. D'ailleurs, vous me l'avez dit vous-même. Et les témoignages de sympathie que je reçois à la suite de mes petites chroniques prouvent que vous vous êtes pas trompé. J'ai eu que deux personnes, des amis bien sûr, qui m'ont dit que c'était pas bien et que j'allais avoir des ennuis. Alors je les ai invités à s'acheter une paire de toutes neuves, les miennes pouvant encore servir. Je vais continuer ma chronique. Je vais commencer très gentiment par une chose aimable. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, à l'occasion de la remise du prix Hugues Capet, Son Altesse Royale, Madame la Comtesse de Paris, Bébelle pour les intimes, pas comme Belmondo, m'a dit « Ah, Marquis, il faut que je vende quelque chose. Chirigues, c'est basque ? Oui, madame. Olmeta, c'est espagnol ? Oui, madame. Alors, vous êtes quoi ? Je suis français, madame. Oh, comme c'est bien. Comme c'est bien. » Et alors, j'ai bien regardé dans ses grands yeux bleus, puis après, je me suis penché légèrement, je lui dis « Français et catholique toujours, madame. Oh, alors c'est encore mieux, c'est encore mieux. »
Vous fréquentez du beau monde dans les salons.
Je vous dis, c'est pour ça que vous m'envoyez. Grand reporter.
Il faudra faire un jour sur... Non, j'allais dire, il n'y a plus d'aciérie, autrement je vous aurais envoyé dans une aciérie.
Voir les maîtres de forge, mais voilà. J'en connais quelques-uns. Ouais. Le baron Cellière. Alors, oui, avant la coupure, je vais quand même vous dire un mot d'un de nos chers disparus, Henri Krasucki. Vous savez, ces comédiens qui n'existent plus, Marchais, Krasucki, qui ont permis aux bébés de chaud, tout ça, d'avoir...
Et Duclos.
Et Duclos aussi, oui, le pâtissier. Hein. Bien, alors Krasucki, je vais pas vous raconter sa carrière, il défendait la classe ouvrière. Grâce à lui, on a beaucoup marché à pied dans les rues à une certaine époque, ça recommencera. Mais il avait une qualité, un défaut, vous voyez la mention inutile, il avait une passion pour l'opéra, mais le grand opéra. Alors pour assouvir cette passion, il avait pris un abonnement à l'Opéra de Paris. Et quand on a un abonnement, on se retrouve en gros 10 fois par an pour voir les spectacles de la saison. Et quand on renouvelle l'abonnement, après on l'a à vie et on a à peu près toujours la même place, et on a forcément toujours les mêmes voisins. Et pendant des dizaines d'années, enfin au moins 2 décennies, Monsieur Henri Krasucki, qui était secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, avait pour voisins d'opéra le comte et la comtesse de Chambrin, le comte de Chambrin étant le descendant direct de Lafayette, avocat international inscrit au barreau de Paris et au barreau de New York, président directeur général de Baccarat, et époux de la comtesse de Chambrin, née José Laval, fille du président du conseil de Vichy. Eh bien, j'oserais dire que, comme je les voyais parler entre eux très tranquillement, que la musique opéra ce miracle de la rencontre. Je continue ou il y a
c'est
coupure.
Encore plus joli. Non, il faut. Oui, allez-y, vous avez une minute.
Mais... Ben, après la coupure, je prendrai la défense de Stéphane Bern, mais je vais commencer par le commencement. J'ai été invité à dîner il n'y a pas longtemps dans un très bel appartement moderne de l'avenue Foch. Bel appartement, bien décoré, reliure de Jean de Bonneau, tapisserie à la licorne, si vous voyez ce que je veux dire. Invité par une princesse portant un grand nom d'Europe centrale qui a le mérite d'être cordon bleu. C'est peut-être pour ça qu'elle a été fait chevalier du mérite aussi. Dans le passé, dans cette maison, j'avais rencontré Jean Favier, à l'époque, il était directeur des archives de France. Il m'avait pris pour l'ambassadeur d'Australie. Et quand il m'avait donc fait 1000 grâces. Et quand je l'avais remis sur rail, en disant non, c'est pas moi, il m'a considéré comme une merde. Et depuis, il évite toujours de marcher dedans quand il me rencontre. J'avais aussi rencontré dans cette maison Gonzague Saint-Bric. Et j'ai plus du tout envie de le rencontrer. Alors, donc je vais revenir au dîner où je me suis trouvé il y a quelques jours. Il y avait en face de moi une dame algérienne, très belle.
Alors, coupe. La suite après la coupure.
Voilà, on reste à la dame algérienne.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. À 21h tout à l'heure, les soirées musicales avec série jazz, puis les musiques de films avec Claudio à partir de 22h. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bonne soirée, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 12 février 2003 de midi de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Vous avez droit à deux génériques cette fois-ci.
Oui, je suis gâté. Alors, je reviens, je disais qu'à ce dîner, il y avait en face de moi une dame algérienne. Ça a son importance. Très, très jeune, d'apparence, très belle, très élégante, beaux cheveux, des yeux magnifiques, etc. Et cette dame, pendant le dîner, enfin au début du dîner, expliquait toutes ses convictions Front National et tout l'amour qu'elle avait pour le président Le Pen. Ce qui lui a valu de se faire traiter d'excité par toute la table.
C'est raciste
Non, ils sont pas allés jusque-là. Et à côté d'elle, il y avait un monsieur, une espèce de vieil aridèle avec un art généalogique, paraît-il, fantastique. Mais à mon avis, vu sa gueule, il n'en est pas descendu, il en est dégringolé et il s'est fracassé au pied. Lui nous parlait de son gaullisme invétéré. Il y avait aussi une dame très vieille, très moche, très bronzée, ça c'est l'île Maurice, qui avait épousé très très jeune un monsieur très très vieux, qui était très très riche et qui l'a laissé très très veuve et très
très
riche.
Mort aussi.
Et qui a eu l'élégance d'être très très mort, qui l'a laissé très très riche. Cette dame, moi je l'ai vue, elle va une fois par mois chercher un peu d'argent liquide à la banque pour sa menu monnaie pour le mois. Alors on lui met les liasses sur le comptoir à la banque, elle enfourne tout ça dans son panty, elle reprend dans son taxi, elle rentre chez elle dans son appartement du 16e. Moi je pense que donc que c'est un fleuve d'argent qui sortit de son lit retourne à sa source. Elle était accompagnée ce soir-là de son gigue du moment, d'un monsieur très élégant, qui est un grand voyou, mais qui est un véritable aristo. Alors tous ces gens-là, après avoir parlé de Lady Di, de ses qualités, de ses vertus, de ses défauts, commençaient à me casser les pieds. J'ai dit que c'était très très bien qu'elle soit fracassée contre un pilier, parce que sinon elle ne serait pas entrée dans la légende. Alors ça a créé une espèce de trou normand verbal. Tout le monde a pu reprendre sa respiration. Et là, ils ont attaqué Stéphane Bern. Alors comme c'est un journaliste qui pense un peu comme nous, mais extrêmement désagréable, surtout que les gens le connaissent pas bien et disent des tas de sottises. Lui, il écrit ses livres lui-même, il a jamais changé d'idée, il a une façon correcte de présenter les choses, il maîtrise au mieux sa petite troupe sur France Inter, ce qui est pas toujours facile. Alors je voudrais prévenir maintenant les maîtresses de maison qui m'inviteront que dorénavant, quand on attaquera Stéphane dans un dîner chez elle, j'aurai pas mon drapeau en berne. Alors, je voudrais quand même lui dire quelque chose à Stéphane. Cher Stéphane, le 23 janvier de cette année, dans le Fou du Roi, répondant à une question d'Alexandre Fedorovski qui vous demandait si vous alliez toujours faire du journalisme monarchique, mais peut-être un peu plus vous orienter vers le people, vous avez répondu « J'ai abandonné les marquis ». Alors, me voilà orphelin d'Auteuil passé. Je voudrais vous dire aussi un mot de la grosse dame, la grosse Lulu, dont je vous ai parlé il y a deux minutes, revisitée par Madame Arthur. Elle nous a raconté pendant ce dîner un voyage culturel. Elle avait visité, dans ce voyage culturel, des habitations troglodytes. Alors je lui ai demandé si le voyage avait été très très coton. Bon. Samedi dernier, j'ai redîné chez la dame algérienne où là il y avait 16 couverts, c'était somptueux, élégant et il n'y a pas eu de fausses notes. Et enfin, avant de vous quitter, je voudrais donner une petite fessée à une dame un peu poupouf qui est Hermine de Clermont-Tonnerre. Non seulement elle emmerde tout le monde dans les restaurants avec son cigare et ses chiens qui divaguent. Voilà que le plus petit chien qui est si charmant, elle lui a fait peindre la queue en rouge. Alors bon, je ne sais pas si c'est très intelligent, mais moi je pense
que ça lui rappelle quelqu'un.
Oui. Bon, en tout cas, c'est pas moi. Et alors j'ai pensé à Hermine de Clermont-Tonnerre, ma pauvre Mimine, j'ai pensé à tes ancêtres qui marchaient au canon, alors que toi tu ne fais que faire parler la poudre que pourtant tu n'as pas inventé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Bon, et en plus, je voudrais quand même rajouter en plus, elle déshonore les Hermines et c'est pas gentil pour ma fille.
Il fallait lui donner un autre prénom à votre fille, elle est venue après quand même. Merci Marquis de cette entreprise de relations publiques que vous dirigez avec beaucoup beaucoup
de... Il va falloir que je m'y remette, mais en fait au Ticket Restaurant.
Oui, j'ai l'impression que...
Ça me fait quand même penser à Blois, à propos d'un entrepreneur en démolition.
C'est... Oui, absolument. Il y a du lion Blois là derrière. Merci Marquis, à bientôt. Vous venez d'entendre la voix de M. l'abbé Cellier.
Qui n'était pas là pour ses propos scandaleux.
Mais j'entends bien. Vous êtes en coup de vent, mais vous lui donnez quand même votre absolution que vous n'avez rien entendu.
Voilà.
Au moins moral.
Moral.
Si ce n'est...
C'est plutôt immoral, me semble-t-il.
Bien. Enfin, ce qui est réjouissant, c'est de voir M. William Bush rire de bon cœur. parce que c'est notre invité, j'ose pas dire vedette, parce qu'on a deux grandes vedettes à hauteur de ce micro, sans compter les vedettes habituelles, mon cher Abbé, vous savez.
Les vedettes américaines.
C'est très, très agréable de vous voir sourire à nos petites plaisanteries, parce qu'en ce moment, on aurait tendance à penser que la rupture est tellement brutale et définitive entre l'outre-Atlantique et la vieille Europe que.
Ce Muche est désormais canadien.
Ah bon,
et
alors.
Et sujet de Sa Majesté la Reine d'Angleterre.
Ah ben c'est parfait, alors tout va bien. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Enfin bon, bref. Et vous vivez en France surtout, c'est ça l'essentiel. Bien, enfin en ce moment en tout cas.
Voilà, pour un bref.
Alors sujet. Je vais d'abord donner la parole, si vous permettez, à Juliette Mills, parce que la tradition est d'abord de donner la parole aux dames. Bonsoir Juliette Mills, comment allez-vous?
Bonsoir Monsieur Debekech, je vais bien, grâce à Dieu.
Dire ça comme ça, hein. Je crois vraiment que c'est jamais la réflexion n'a été aussi frappée au coin de la vérité.
Je vous remercie de m'avoir soutenue dans cette épreuve difficile. Et je crois que, écoutez, Dieu n'a pas voulu de moi cette fois-ci.
Il y a un an, on vous aurait amené en plusieurs voyages, pratiquement.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, oui, j'étais toujours dans le coma, donc je crois avoir vu, je ne sais si c'est l'enfer ou la fin du monde, mais enfin, j'étais quand même très proche de l'au-delà, enfin, dans le ciel que de l'au-delà terrestre.
Oui. Eh bien, vous êtes apparemment remise, vous êtes resplendissante, vous
merci.
Êtes bonne mine, et vous n'avez pas interrompu la peinture, alors que c'est une peinture de force que vous faites, puisque c'est une
peinture difficile,
très physique.
Oui, très physique.
Dites-nous un peu comment vous travaillez.
C'est comme de la lave de volcan, c'est du plomb fondu désintoxiqué de sa matière nocive, qui est brûlé à l'aide d'un chalumeau. Cette matière se compose à peu près au toucher comme une cire d'abeille très épaisse et ça me permet de sculpter les huiles qui vont se brûler sur cette cire, ce qui donne à la croûte de la peinture l'aspect physique d'une lave de volcan.
C'est de l'alchimisme.
Oui, bah oui. Oui,
c'est de la peinture alchimique.
Tout à fait, je me suis inspirée de Nicolas Flamel, j'ai eu accès à son traité de l'alchimie sur le plomb transformé en or. Rassurez-vous, l'or, ça serait après ma mort, parce que de mon vivant, je ne pense pas y parvenir, mais c'est vrai que...
Il faut voir le prix des tableaux, c'est ça.
Voilà. Oui, non, non, mais...
C'est peut-être de l'or transformé en
plomb. Le prix esthétique.
Pour démarrer.
Peut-être. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'inviter pour cette exposition.
C'est terrible comme travail de peinture. Vous travaillez au chalumeau
C'est-à-dire que c'est une peinture qui sèche très lentement, donc entre chaque couche de peinture qui ressemble un peu à du vitrail, il faut attendre un mois. Donc heureusement qu'entre-temps, je remets des liturgies, de la musique classique, des opéras. C'est comme ça que petit à petit, ma peinture s'est reliée au grand thème des opéras classiques et que j'ai pu réaliser mon propre opéra, justement. Ça vient de là, ça vient du temps qu'il faut attendre entre deux couches de peinture. Donc j'ai le temps de me replonger dans la musique.
Parce qu'on vous connaît aussi pour ce que vous avez fait avec Yuri Bukov, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous organisiez des...
Oui, des festivals de musique classique sur un thème opéra-piano-peinture. Et je crois que ce concept plaît beaucoup aux personnes, puisque je sais que grâce à Radio Courtoisie qui m'a interviewé la semaine dernière que quelques minutes au téléphone, je crois, dans votre émission, en tous les cas vous êtes très écoutés, puisque j'ai eu le bonheur de voir arriver à la mairie du 16e chez monsieur Pierre-Christian Tétinger qui m'a gracieusement prêté ses salons d'honneur pour cette merveilleuse exposition. J'ai vu plus de 300 personnes venues de la Radio Courtoisie.
Allons bon.
Donc je trouve ça extraordinaire pour un artiste.
Ils sont peut-être pas tous abonnés.
Ah, je ne sais pas. En tous les cas, ils se sont fait connaître. Et ça a été très agréable pour moi.
Je voudrais montrer, pendant que vous parlez à monsieur l'abbé Cellier, parce qu'il est étranger à la cause. Parce que moi, si je dis du bien de votre peinture, on va dire que je suis prévenu. Mais lui, et puis peut-être monsieur William Booth,
faudrait que
vous regardiez cette photographie.
Moi, je suis un inculte.
Vous êtes un exploiteur d'artistes, en tant qu'éditeur. Alors, je vous ai interrompu. On va laisser monsieur Booth et l'abbé Cellier regarder, puis après, on leur demandera leur avis. Je serais surpris qu'ils en disent du mal.
Enfin, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Mais c'est très sympa, quoi.
Donc, cette exposition est encore en cours
oui,
à la mairie.
Elle se termine samedi prochain, le 15, à
12h30. Il ne faut pas perdre de temps, donc, alors, il faut courir.
Oui, parce que là, j'ai été très heureuse de me rapprocher de Paris, parce que vous savez que je ne peux pas vraiment travailler dans mon pays. Donc, je travaille beaucoup plus à la Scala de Milan ou à l'étranger. Donc, c'est difficile pour moi, Paris.
Mais Jésus-Christ le disait déjà.
Oui, parce que je ne suis pas très tendance, enfin, de leur goût, en tous les cas, pour la peinture.
Il vaut mieux en sport.
Donc c'était très très sympathique de bien vouloir m'accueillir.
Alors vous préparez un nouvel opéra?
Oui, quelque chose, je prépare un oratorio pour la cathédrale Saint-Ayoul de Provins, où justement je mélangerai les cantatrices de la Scala, les pianistes solistes, mes œuvres. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir les cathédrales qui m'accueillent, puisque je fais chanter les partitions vraiment à l'ancienne, que ce soit les sabbatmateurs, les requiem, et puis après des partitions d'opéra un peu plus transcription pour piano seul. Mais enfin, j'ai beaucoup de possibilités de ce côté-là. Donc,
Mais où allez-vous pêcher cette énergie? Parce que je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé. C'est pas la dernière fois, je crois que c'est la fois d'avant, vous aviez transporter des arbres entiers dans votre voiture pour les peindre en doré et les mettre sur une chaîne.
C'est-à-dire que là, M. Tétinger et son équipe qui s'occupe de la culture, il y a une femme charmante qui s'appelle Céline Boulez-Péronnier, qui est de ma génération, enfin plus jeune que moi, qui a bien voulu m'ouvrir les portes pour les arbres parce qu'ils ont 6-7 mètres de haut. Et là, il a fallu que je réquisitionne 2 camions parce qu'effectivement, quand je me transporte avec 2 camions berliers, avec des arbres peints que j'arrache à la tempête, ils font tous 6 mètres, 7 mètres de haut, et je les ai tous peints avec les doigts, avec des couleurs différentes, pour que la forêt magique de Richard Wagner soit dans le cœur de l'exposition.
Ils sont à l'exposition, ils sont à la mairie.
Déjà, oui, personne. C'est pas ça, c'est que quand je suis avec le camion, aucun huissier ne voulait m'aider. Quoi.
Alors, les huissiers, c'est pas le genre fréquentable.
Non, parce qu'ils pensaient pas qu'une femme toute seule comme ça puisse, entre les 4 camions de toile géante et les 2 camions d'arbres, effectivement, chaque fois que je m'expose, il faut de la place.
peut-être que la prochaine fois, M. Tétinger fera dans la miniature.
Je suis désolé de rappeler ça, mais c'est quand vous connaissez pas, vous n'avez pas vu Juliette Mills la dernière fois qu'elle est venue, l'avant-dernière fois, plus exactement, mais. Depuis, elle a eu un accident de voiture effroyable. Elle a été broyée littéralement. Et vraiment, quand on vous regarde, quand on vous voit bouger, sourire, il n'y a pas le moindre soupçon qui vous est arrivé ça. Quand on vous voit, je dis bien vous, ce que vous éprouvez, c'est autre chose. Mais cette énergie que vous trouvez pour continuer à peinture qui est physique, avec ce déplacement de matériel et tout.
Je pense que c'est parce que j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Déjà, il faut de l'énergie. Et que je n'ai pas eu peur de m'enfermer 2 ans au Tibet pour faire une thèse sur la Voie lactée. Je pense que quelque part, je vous dis, je crois en Dieu et je crois que cette fois-ci, vraiment, vu l'agonie physique...
Apparemment, il croit en vous aussi.
Là. Oui, je pense qu'il m'a laissé là parce que je pense que je n'en ai pas fini de mon message et que si je dois continuer à travailler, il faut que je le fasse. Donc, c'est pour ça que je vous remercie infiniment de m'inviter pour en parler.
Il y a un message, je crois.
Un auditeur demande, Juliette Mills est-elle la superbe vedette de cinéma que j'ai admirée il y a un certain nombre d'années? Si oui, je lui transmets mes hommages émus.
Sinon, rien.
C'est bien la même personne. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé une première partie de ma vie par la danse classique en tant que petit rat. Puis après, j'adhérais pas encore au système hiérarchique, donc je suis partie en Amérique faire acteur studio. Puis j'ai fait 57 films quand même, jusqu'à 32 ans, donc à Hollywood. Et je suis allée directement au Tibet, donc c'est une transition terrible. Et après, écoutez, je me suis servie de la spiritualité comme moteur et comme énergie pour créer quelque chose qui soit vraiment, qui me ressemble vraiment. Donc il y a vraiment 2 femmes là qui ne sont que la continuité de l'autre. Je ne renie rien puisque je peux me permettre de faire des mises en scène actuellement parce que justement j'ai 50 ans et que j'ai donc 25 ans de parcours artistique devant. Je pense que pour ce que je fais maintenant, c'est pas une jeune fille qui pourrait mettre en scène Tristan Hilsoult ou des grands classiques. Il faut un certain vécu, une certaine expérience. Mais enfin, dites à ce monsieur que bon... ça tient encore debout, quoi. J'ai plus que des broches et tout, mais on voit pas trop que...
Vous parlez pas des broches que vous avez sur votre pull vert.
Non, je parle des broches dans le corps. Ça va encore physiquement, hein.
Ça se va très très bien. Je vous trouve vraiment...
Je lui demande parce que je crois beaucoup dans son regard, donc je pense que c'est un homme
qui m'en parle. Vous êtes absolument inchangé.
Donc, merci monsieur de se souvenir de moi.
Ça n'a pas éteint la lumière.
Quand j'étais une actrice, vous savez, quand on est une actrice, on demeure. Il y a des excellents rôles de grand-mère qui m'attendent, hein, ou de mère, on peut jouer jusqu'au bout. Mon rêve, c'est de faire Bette Davis plus tard, quand ils voudront bien. bien me donner un théâtre à Paris. Pour l'instant, je peins des arbres, c'est vrai. C'est enfin, tout, les arbres, je les mets quand même sur la scène. Et c'est quand même de la lumière. Donc, même si on m'a exilé, je reviens avec ma maison sur mon dos.
Oh, vous, je fais sortir par la porte, vous rentrez par la fenêtre.
Avec des arbres. Avec des arbres.
Serge, une actrice qui balance son âge à la radio, c'est sur Courtoisie et nulle part ailleurs. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça.
Ça sert à rien de
c'est
cacher.
Alors, je suis comme vous, je la trouve vraiment.
Hein?
Ouais. Voilà. Non, mais je trouve qu'il ne faut pas mentir. Pas l'âge, on a l'âge qu'on a, puis surtout quand on est dans ce métier-là, on est fiché dans les archives. Enfin, depuis 16 ans et demi que je suis en scène, on peut faire des recoupements. Donc moi, je suis déjà une femme de vérité. Et puis, de toute façon, on a l'âge qu'on a, et tant pis, ou tant mieux. Mais moi, c'est vrai que je triche pas, c'est vrai.
Comme faisait Miss Tinguette, qui à 70 ans passé, Miss Tinguette, on lui demandait quel âge elle avait, et elle répondait, oh, je suis plus près de 60 que de 50.
Alors, messieurs, en quelques mots, ou plus, si vous voulez, vous avez pu regarder des photographies. Des photographies, alors naturellement, ça ne rend pas.
Non, parce
ça
que...
ne rend pas justice à la peinture, surtout que c'est une peinture très.
De matière,
très,
oui.
Très, avec de la matière. Monsieur Bouche, qu'est-ce que ça vous inspire, cette.
Mais j'ai été frappé par les photos de Tristan. Que,
oui.
Vous avez certainement compris l'esprit, je crois.
Tout à fait, oui. Donc je travaille beaucoup sur Richard.
Et c'est très complexe.
C'est très complexe, surtout pour une femme. Mais... Et je n'ai pas beaucoup été acceptée dans ce milieu d'hommes pour faire des mises en scène, justement, d'opéra.
Oui,
mais par contre, je suis demandée par les cantatrices maintenant. Parce que c'est plus fort pour moi d'être demandée par les artistes. Donc elles pensent qu'une autre artiste, justement, peut les mettre en scène, les faire bouger sans être ridicule, en respectant la partition à la lettre. Et puis aussi dépoussiérer un petit peu tout ce qu'on peut en dire. Pour que l'opéra vienne aussi aux gens simples, aux gens qui pensent que je pense que l'opéra a été créé pour le peuple. Tous les opérants italiens étaient créés pour au balcon comme ça, où ils recevaient des tomates quand ils étaient mauvais. Donc je pense que toute la création de l'opéra, dont on a fait quelque chose de snob, de distancié et de mondain, moi je le ramène, si vous voulez, à sa dimension ordinaire, du moment que le contrat est respecté, c'est-à-dire que l'œuvre est respectée et que Wagner lui-même est respecté.
Je crois.
Donc Chériguès avait raison tout à l'heure.
Il voulait que ça soit
de rappeler que
pas tout le monde.
Razuki était un habitué de l'opéra.
Oui.
C'est l'universalité qu'il
avait. Tout à fait. Et je pense que Georges Sand, elle faisait ça, elle devait emmener Chopin avec sa calèche, parce que c'est quand même combien de personnes les ont entendues entre Chopin, Liszt à cette époque-là avec les calèches, entre le roi de Prusse, Liszt en Espagne, enfin tout ça avec des chevaux tirés par des calèches, je trouve qu'ils ont été entendus par 200 personnes au maximum. Et on est toujours sur les mêmes partitions actuelles des opéras de ces gens-là. Donc moi je fais un peu pareil avec mes arbres sur le dos. C'est un peu la même démarche.
On peut vous voir, on peut voir vos œuvres, et vous aussi d'ailleurs.
Ah oui, j'y suis tous les jours,
à la mairie du 16e.
Dans les salons d'honneur.
Et puis au mois de mai.
Oui, je reviendrai vous.
Vous viendrez pour nous dire ce que vous préparez exactement.
À la cathédrale Saint-Ayoul, cette merveilleuse cathédrale de Provins.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
À bientôt. Gardez-vous bien.
Merci.
Alors, je me tourne maintenant vers M. l'abbé Cellier, prêtre éditeur, et je vais lui demander de nous présenter M. William Bush, qui est l'auteur donc d'Apaiser la terreur, prix Saint-Louis depuis hier soir. Tout à l'heure était assis à votre place Maître Wagner, qui nous a dit que c'était lui-même en personne qui avait remis le prix à M. Bush, donc on est toujours en famille. Alors, qui est William Bush?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire à tous nos auditeurs que M. Bush est venu donc pour la remise de ce prix Saint-Louis de son lointain Canada, de Western Ontario dans le Canada, et qu'il va repartir samedi. Et je pense qu'il ne reviendra pas avant quelques jours, peut-être même quelques années, peut-être même jamais. Je l'espère qu'il reviendra, mais mais ce n'est pas du tout sûr qu'il revienne. Donc je leur signale que M. Bush signera son livre Apaiser la terreur, qui vient de recevoir le prix Saint-Louis, vendredi 14, vendredi qui arrive là, de 16h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Donc tous ceux, soit qu'ils l'ont déjà acheté, qui viennent le faire signer, soit peut-être qu'ils ne l'ont pas, qu'ils viennent l'acheter à la librairie, mais Monsieur Buch n'est jamais venu en France depuis la sortie du livre. Il est venu pour le prix Saint-Louis, qu'ils en profitent, car ils n'auront pas d'autres occasions de le revoir. On le redira tout à l'heure, mais je crois que il faut commencer.
Enfin, on va faire un matraquage publicitaire, vous n'avez pas idée.
Voilà, pour bien faire cela. Donc, je présente effectivement le professeur Buch, qui est the spécialiste mondial in the world of
même
the
vous
Bernanos.
Avez dit, il a sursauté.
Non, il est donc le spécialiste de Bernanos, éditeur de plusieurs éditions critiques de manuscrits, donc de livres de Bernanos, d'études sur Bernanos, et qui est connu en France, qui est donc docteur de l'université de la Sorbonne en France, et qui est enseignant en université d'abord américaine, puis désormais au Canada, sur la littérature française, surtout du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc, consacré sa vie à l'étude de Bernanos, à l'étude de 8 volumes sur Bernanos, et qui s'est trouvé... amené par une suite de circonstances relativement extraordinaires, qu'il va peut-être un petit peu nous expliquer, à consacrer une autre partie de sa vie, en tout près plus de 10 ans de travail, aux Carmélites de Compiègne, sous la forme de 2 ouvrages. Un premier ouvrage scientifique de critique textuelle sur les manuscrits de la survivante, qui a été édité en 1993 aux éditions du CERF, et cet ouvrage Apaiser la terreur, qui est l'ouvrage historique et littéraire sur l'histoire, la véritable histoire des Carmélites de Compiègne et la découverte du mystère de leur vocation aux martyrs auxquels elles se sont adonnées jusqu'au bout. Donc, ce livre donc est d'abord paru en anglais, donc chez les Carmes, dans la maison d'édition des Carmes américains, puis a été publié par la très modeste maison Clovis en français, avec une traduction de Jean-Paul Bess, qui est un ami et qui est un homme qui est vraiment quelqu'un de chez nous, et qui donc a traduit cela de l'anglais. J'avais dit américain d'abord, puis on m'a repris, c'est pas de l'américain, c'est de l'anglais.
Donc de l'anglais,
voilà, voilà, de l'anglais au français. Donc voilà, je crois l'essentiel de ce qu'on peut dire très rapidement. Peut-être monsieur Buch peut nous expliquer comment est-ce qu'effectivement de Bernanos s'il est passé au Carmélite de Compiègne.
Je voudrais d'abord demander à M. Buch comment s'est passé cette... Parce que c'est une passion française, apparemment, pour faire la Sorbonne, pour vous pencher sur un écrivain français comme Bernanos, aussi français que Bernanos. Vous avez une passion pour la langue et pour la littérature.
Bernanos, pour moi, c'est le coup de foudre. Ouais. C'était le soleil de Satan. Et...
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a suscité
cette passion? Je ne m'en suis jamais remis. Ça remonte à 50 ans. Il y a 50 ans, oui.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a soulevé d'enthousiasme comme ça
dans le soleil dans le texte.
Ouais.
On ne peut pas se défendre. Il est là. N'est-ce pas? Ça m'a fait à la fois pleurer et trembler. Ouais. N'est-ce pas? Et je dis, mon Dieu, mais ce qui m'intéressait, quelle sorte d'homme est-ce? Comment est-ce qu'il était, Bernanos? Alors finalement, je suis parti à la découverte. Et comme ça, je finis par venir en France comme docteur.
Et l'homme Bernanos que vous avez découvert était adéquat à ce que vous attendiez en lisant son livre?
Oh oui, il est passé. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un qui parlait comme ça. C'est comme Dostoïevski. J'avais déjà lu Dostoïevski. Alors, mais Bernanos, c'était, voilà, en littérature française, c'était, mais qu'est-ce que c'est?
Quand vous évoquez Dostoïevski, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Dostoïevski est un Bernanos russe ou Bernanos un Dostoïevski français?
Oui, on l'appelle Bernanos Dostoïevski français, et moi j'ai même fait des articles là-dessus, mais
la langue est pas
tradition. Enfin, ce qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux sont tout à fait d'accord avec les pères du désert. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'homme, c'est une sorte de champ de bataille.
Oui.
Où le mal et le bien, n'est-ce pas, sont en guerre.
Mais où le mal est une personne aussi. Il y a une personnalisation du mal.
Mais enfin, c'est la tradition chrétienne, monsieur.
Bien sûr. Oui, mais c'est ce qui est de plus en plus couramment discuté aujourd'hui. Ça fait partie.
On discute beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ces choses-là qui sont de... Je ne discute pas, je suis orthodoxe. Alors,
le soleil de Satan est un... Oui, c'est vrai que vous êtes orthodoxe.
C'est vrai.
Oui, alors là, pardonnez-moi de vous avoir posé la question, parce que là, c'est même... c'est à la limite du blasphème de demander à un orthodoxe ce genre de question. Mais est-ce que vous êtes resté dans l'impression que vous avez eu... la première fois que vous avez lu Sous le soleil de Satan, oui, vous avez toujours gardé cette espèce de crainte révérentielle devant ce livre.
Oh, certainement, et 30 ans après, j'ai fini par faire une édition critique du manuscrit original, qui m'avait montré encore des choses, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire les regrets,
la première
les
édition, j'ai été désaxé, n'est-ce pas, par Jacques Maritain, qui dirigeait la collection, où ça a été publié au plomb, il dirigeait une collection. Eh bien, on s'est très flatté par cela, Maritain lui a demandé beaucoup de corrections, qui a fini par céder, parce qu'au fond, Bernard avait un côté un peu faible, et il allait perdre toute cette gloire de publier son premier roman, il avait 38 ans. Et dans une collection prestigieuse et catholique, c'est le Roseau d'Or, n'est-ce pas? Alors, j'ai raconté tout cela dans un autre livre, n'est-ce pas, la genèse et structure de Sous le soleil de Satan, scrupules de Maritain et autocensure de Bernanos. Et c'est une histoire tragique, si vous voulez.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'en savoir plus sur les deux personnages, sur Bernanos et sur Maritain.
Ce que me disait le professeur Buch, on en discutait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qui est étonnant de la part d'un homme comme Maritain, qu'on se considérait comme un grand catholique, c'est qu'il a notamment éliminé la personnalisation du démon.
La présence du démon est réelle,
si vous voulez, le fait que le démon soit un être...
Alors, c'est très étonnant. Enfin, c'est à la fois pas très surprenant, parce que c'est quand même... Maritain, c'est quand même un moderniste, d'une certaine manière.
C'est ça.
Bon, et puis, en revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'il a... publié ou supervisé la publication d'un livre qui va complètement à l'envers, qui est le formidable bouquin sur le père Lamy.
Voilà ça.
Qui est vraiment, alors là où le démon est présent, puisque le démon a même des conversations. Aussi.
Voilà ça.
Il y a des propos du père Lamy, par exemple, qui racontent qu'un jour il était particulièrement emporté contre le malin, la Sainte Vierge lui apparaît et lui dit respect à l'ange déchu.
Voilà ça.
C'est quand même un truc incroyable.
Voilà
enfin, c'est vraiment la phrase la plus stupide. Fiance qu'on puisse imaginer. Et donc, cette dualité chez Maritain, cette fascination en même temps pour quelque chose à quoi il faisait semblant de ne pas croire. Et maintenant, les autres... on va parler d'apaiser sous la terreur, mais... apaiser la terreur, pardon, on va en parler, mais les auditeurs pourront le lire. Il est en vente à la librairie France Livre.
C'est spécialement donc le vendredi 14 février de 16h à 19h où le professeur Buch dédicacera exceptionnellement ce livre. Donc là, je...
Faites penser à, si j'ose, sans vous blesser, vous me faites penser à Julie, à Europe 1, qui fait des inserts publicitaires.
Si Radio Courtoisie a autant d'auditeurs
qu'Europe 1,
j'espère pour vous que Clovis fera pas autant de déficit que Libération.
Voilà.
Donc, parmi les autres livres de Bernanos, lequel est...
Je suis connu comme spécialiste de Monsieur Wynne. Ouais. Le roman le plus difficile.
Ouais.
Voilà. Alors, c'était après ma thèse sur souffrance et expiation dans la pensée de Bernanos, j'ai entrepris cette sorte d'exégèse de Monsieur Wynne, ligne par ligne. J'ai consacré 3 ans. Et ça... Et maintenant, enfin, j'ai fini il y a quelques ans, n'est-ce pas, traduire en anglais.
Voilà.
Je vous pose une question.
Monsieur Wynne, qui est c'est quand même le mot lui-même extraordinaire. Monsieur Wynne, c'est oui-non.
Oui-non, c'est ça.
Qui est toujours entre deux eaux, quoi.
Je vous pose une question qu'on ne pose jamais au biographe, mais qui m'a toujours intrigué, et qui est peut-être indiscrète, mais de quoi vit-on quand on consacre 3 années à travailler sur un livre qui va paraître et qui va être ou pas un succès, vous continuez à faire votre métier
professeur,
d'enseignant,
j'ai fait traitement.
Oui. Parce que on dit beaucoup que le système des éditions en Amérique, enfin Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis, permet aux universitaires de faire des travaux très prolongés, très approfondis, ce qui donne des biographies formidables, parce que les éditeurs ou les universités financent en quelque sorte leur recherche.
Disons qu'on est récompensé si on travaille. on est ah oui, pas français, on est le monde, n'est-ce pas,
le salaire monte, et puis vous avez des bourses d'études. Des
il y a bourses, des bourses d'études.
Donc oui, M. Buch est venu donc, pour ce livre, avec une bourse américaine, canadienne, pendant un an, puis de nouveau une nouvelle année, c'est ça. Voilà, payé par...
Et quand vous avez découvert Bernanos, vous n'étiez pas en France à ce moment-là.
Non, pas du tout.
Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que ça a apporté quelque chose à votre approche
de Bernanos? Oui, parce que j'avais tellement envie de venir en France. Et alors, je m'intéressais surtout de mettre en rapport avec la société Bernanos. Parce que comment est-ce possible de connaître cet homme-là? Alors, ça n'a pas marché la première fois. Je suis venu, j'avais une bourse pour venir faire un cours d'été à l'Université de Grenoble pour améliorer un peu mon propre français. Alors, et puis, mais c'est la deuxième fois en 55 que j'ai rencontré Michel Bernanos et puis par lui, Abbé Béguin, l'exécuteur littéraire de Bernanos, que j'avais déjà regardé dès la première rencontre. J'ai regardé comme mon maître parce que c'est lui, il faisait ce que je voulais faire comme critique. C'est-à-dire chercher la vérité à travers le texte.
Chercher le personnage, c'est la technique de Sandbach.
Si on veut le connaître l'homme, il faut comprendre ce qu'il voulait dire.
Ouais.
Alors, j'ai dépouillé beaucoup de manuscrits de Bernanos parce que finalement, si on suit surtout dans une esthétique telle qu'un roman, n'est-ce pas, il faut suivre la genèse de la pensée de l'auteur. Et bien, on s'écrivait, n'est-ce pas, une fois, puis il répétait, puis il répétait, et enfin, à troisième, quatrième fois, il a gardé. Ou peut-être il a repris le premier jet, oui.
Et est-ce qu'il polissait beaucoup son écriture? Est-ce qu'il
beaucoup.
Donc il attachait une grande importance à l'objet, à la phrase comme objet.
Oui. Et cette espèce, il dit qu'il travaillait par intuition. Comme les oiseaux, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il travaille par intuition. Et je crois que c'est vrai.
Et ce qu'il raconte dans, par exemple, Le Soleil ou Le Journal, est-ce que ce sont des choses vécues ou ce sont des imaginations qu'il s'est faites, d'après la connaissance que vous avez
de son? Non, c'était un être tout spirituel. C'est-à-dire qu'il avait des fondements religieux et en même temps, il avait une foi nourrie d'une très profonde prière. Toute sa vie, finalement, était enracinée là-dedans. Il y avait des conflits, bien sûr, mais au fond, c'est ce qu'il était et il voulait exprimer cette expérience de Dieu. Alors, par exemple, il a écrit L'Imposture, qui décrit un prêtre qui a perdu sa foi.
Oui.
Alors Bernanos,
il y a un personnage,
personnage
du jésuite est fascinant.
Mais en même temps, il était jamais comme il s'est inspiré d'André Gide pour Monsieur Wynne.
Oui.
Cette idée de Wynne, Gide se contredisait tout le temps. Il a raison. Alors, je vais écrire ce qu'il y a de plus fort contre Gide. Et finalement, c'est pas André Gide du tout, mais la vérité de Gide là-dedans.
Oui.
Et c'est comme ça qu'il toujours chez lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, un grand artiste ne recrée, il fait quelque chose qui est à lui, mais qui finalement peut s'appliquer un peu partout, je crois. Et bien, c'est un très grand artiste.
Et alors, donc, par Bernanos, vous en arrivez à la décision d'approfondir un des domaines d'exploration de Bernanos, qui est
l'affaire
des Carmélites.
Monsieur Wynne, Mauvais Rêve, et puis l'édition critique de j'ai fait beaucoup, enfin, je les ai abandonnés parce que finalement, on pouvait, j'ai commencé avec les Carmélites. Et me voilà depuis presque 20 ans.
Mais à propos de l'édition critique, je voudrais revenir un peu en arrière, si vous permettez. Vous parliez du travail de Bernanos et de Maritain, en fait, pour Le Soleil, et en nous disant qu'il y avait peut-être pas autant de Maritain que de Bernanos, mais il y avait beaucoup de Maritain dans Le Soleil. Et vous avez retrouvé.
Il y a beaucoup de choses absentes à cause de Maritain.
Voilà. Et vous avez retrouvé le manuscrit original.
C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'était.
Enfin, vous avez étudié le manuscrit.
Je suis allé voir.
Donc vous avez vu tout ce qui a été enlevé.
Oui. Bon.
Et est-ce que vous ne croyez pas qu'au fond, il y a une espèce d'effraction dans le fait d'aller rechercher dans un livre que l'auteur lui-même n'a pas publié, quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne l'a pas publié. En tout cas, il a fini par consentir aux corrections que lui demandait Maritain.
À contre-cœur, parce qu'il était coincé. Le livre devait sortir, il avait reçu la critique des Américains à la dernière minute, il s'est défendu. Alors, j'ai dépouillé les lettres, n'est-ce pas? Il s'est défendu comme il pouvait. Mais finalement, Merita était un homme très charmant, etc. Finalement, il a cédé. Lorsqu'il a reçu une lettre de Mme Merita, le Reis Merita, en disant qu'on priait à Meudon pour les enfants Bernanos, qui étaient beaucoup de maladies, alors il était tellement touché qu'il a dit, bon, je vous donne carte blanche. Et c'est il a abandonné. Moralement, il a abandonné son
corps. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans le cinéma aujourd'hui, où on voit un film sortir, et puis après, on voit ce qu'on appelle le director cut, le montage du original, enfin celui dont rêvait le. Alors pourquoi Bernanos n'a-t-il pas publié 30 ans plus tard la version originale du Soleil, en disant voilà ce que je voulais écrire.
Parce qu'il était coincé, ça doit sortir, et Marie-Jean a demandé cela, et puis il a fini par s'y aller. Parce qu'il s'est défendu. Au début, les lettres qu'il écrivait, parce que Mangin lui avait dit, mais Dieu ne traite pas ses saints comme ça, n'est-ce pas? C'est trop dur.
Il savait comment Dieu traite ses saints.
Oui. Bon,
ben, c'est pas ce que disait Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Et Saint-Thérèse d'Avila.
C'est un réaliste catholique, tout de même, Bernard, n'est-ce pas? C'est un homme, alors, est très estimé au Vatican. Tout ça, c'était. Alors, mais il se croyait vraiment expert en matière. Il était si peu artiste, il n'avait pas compris que Peggy non plus. Il avait critiqué Peggy pour sa présentation de la Sainte Vierge. Ouais. Imaginez-vous.
C'est pas mal, quand même.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le livre de Bernanos a été le plus gros succès de la collection La Rose d'Or. Ils ont vendu 60 000 exemplaires, ce qui à l'époque était très important. Énorme, ouais. Donc, du fait qu'il avait apporté aux Rose d'Or beaucoup, il était aussi un peu coincé pour dire j'ai été un minable.
J'ai calé,
etc. Quoi.
Et la raison pour laquelle j'ai consacré tant ça fait 8 ans à ce travail-là. Je suis allé 10 fois en Suisse pour revoir le manuscrit. Je commençais toujours à zéro, comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Et ce qui m'avait, c'est que Bernanos avait gardé ce manuscrit. Normalement, il avait besoin d'argent, toujours Bernanos. Il avait vendu ce manuscrit, mais celui-là, il avait gardé. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait évident. Il avait même repris, et avec un crayon, il a noté tout ce qu'on avait changé dans l'édition. Comme si un jour, peut-être, quelqu'un viendra qui comprendra, n'est-ce pas? Alors finalement, il n'a pas vendu qu'en 34, ou lorsqu'il était vraiment dépouillé, on avait perdu tout. Donc il a vendu le manuscrit. Et puis le manuscrit a fini en Suisse, où il se trouve maintenant. Et il y avait on faisait le catalogue, c'était à la bibliothèque de la Fondation Martin Bodmer, qui a une belle collection d'art et toutes sortes de choses. Donc on faisait un catalogue et puis on a découvert, voilà, là, ce manuscrit existe. Et il y avait une étude faite en France avant. Moi, j'ai lu l'étude, j'ai dit, mon Dieu, c'est très, très important. Mais le commentaire qu'on avait fait là-dedans me semblait manquer de compréhension de ce que Bernanos voulait faire. Parce que, en lisant l'échangement, j'ai dit, mon Dieu, tout a été désaxé. C'est pour cela que je suis allé, moi, pauvre étranger, il fallait venir en Espagne, en Europe, et puis, par la suite, aller en Suisse. Je l'ai fait 10 fois.
Et vous avez donc publié l'édition critique, alors?
Oui, Plon l'a publié. Plon l'a publié. Oui. En 82.
Mais on va chercher tout... ça doit être, ça doit être passionnant. Ouais.
Mais qui est introuvable maintenant.
Rien n'est introuvable. Quand on cherche.
Bonne chance. J'en ai chez moi.
En tout cas, ce qui est trouvable, c'est apaiser la terreur. Alors, donc, je vous ai interrompu quand vous commenciez à. Enfin, Juliette, à bientôt. Quand vous commenciez à nous parler de la façon dont vous avez entrepris de travailler plus en profondeur sur cet épisode tragique de l'histoire de France et de l'histoire de la Révolution et de la Terreur, comment ça s'est passé alors pratiquement? Comment avez-vous commencé à travailler sur l'aspect historique de cette affaire et pas seulement sur l'aspect, je dirais, littéraire?
Mais enfin, ça avait commencé parce qu'on voulait monter à Paris une nouvelle présentation du Dialogue des Comédies, la pièce, avec Raymond Géron. Et Jacques Chirac, enthousiaste, au mairie de Paris, etc. Sylviane Bernanos, à qui enfin j'ai dédicacé le livre, elle m'avait demandé de me présenter à Raymond Géron en disant voilà l'homme pour faire le dépouillement du manuscrit, parce qu'il voulait présenter le manuscrit tel qu'il était, sans autre mot, sans édition de Bacon, etc. Donc j'ai fait ce travail, ça a tombé à l'eau, hélas, mais moi, en recommençant à regarder tout ça, et surtout les sources historiques, je me trouvais pris. Je suis allé en 80, c'était vers 80, puis 82, 83, j'ai dit, bon, je vais tout de même, l'opéra en grand succès en Amérique du Nord, aux États-Unis, aussi bien qu'au Canada. Et je vais faire un petit livre racontant les faits pour les gens qui aiment l'opéra, parce que ça peut être intéressant. Et pour cela, je voulais, avant d'entreprendre ce travail, comme bon orthodoxe, je voulais vénérer les reliques, quelque chose que les carmélites avaient touché. Alors, il y avait cette petite statuette qu'elles avaient baisée, n'est-ce pas, montre à l'échafaud. Et mon ami, très ami Bernanosien, monsieur Guy Gaucher, m'a dit, écoutez, puisque le père Carme, si tu veux aller à Carmel de Compiègne, je suis allé, et là, on m'avait sorti tout un tiroir rempli de documents, où j'ai constaté qu'il y avait les documents, justement les manuscrits de ma réincarnation, réchappés de la guillotine. Puisque j'avais constaté, en lisant le gros source, l'étude de sommaire, n'est-ce pas, de Père Bruno, qu'il y avait beaucoup de contradictions dans ces quatre manuscrits. Je dis, bon, voilà la chose qu'il faut faire. Donc, on m'avait invité à revenir. Et au bout de deux semaines, on m'avait dit, bon voilà, vous savez, on espère la conversation, vous connaissez maintenant notre document, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je dis, mais écoutez, il faut absolument que quelqu'un fasse une bonne édition scientifique de ces quatre manuscrits, parce qu'il y a des contradictions là-dedans, et j'avais lu le procès en 1906. Pour la béatification, on s'est mis en quatre pour dépasser toutes ces contradictions. Alors, il faut absolument qu'on fasse cela. C'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait avant la béatification. Moi, c'est comme ça. Et puis, ma prieure m'avait demandé si je voulais bien me charger de ce travail. Je dis non. Je suis bernanosien, je ne suis pas historien, pas du tout spécialiste et carmélite. Mais pensez-y. Et puis, est-ce que je raconte
comme dirait l'autre, c'est bien les femmes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors
le fait. Je crois que c'est un beau fait.
Oui. Bon, alors, le lendemain, j'avais rendez-vous à Picpus, où les Carmélites sont enterrés, avec l'archiviste. Et elle était assez méfiante de ce monsieur canadien, comme elle parlait. Et puis, finalement, au bout de deux heures, on avait parlé, entrer en conversation, ça marchait très, très bien. Puis, il dit, je crois que vous dites bien tout de même. Fais un petit tour, n'est-ce pas, sur le tombeau. Je dis, oui, mais c'était vendu, parce que c'est privé. Non, je crois que je peux en trouver la clé. Alors, elle a trouvé la clé. Et elle m'a indiqué qu'il y a deux forces là, cette force-là. Alors je suis en bon orthodoxe, je suis prosterné sur le tombeau des saints martyrs, et en me relevant, j'ai saisi une poignée de cailloux. Alors puis, on se dit au revoir, en sortant dans le cour du monastère, j'ai regardé, il y avait 17, 16 pour les martyrs, 17e pour mes réincarnations et 6 ces manuscrits. Alors j'ai...
Quelle belle histoire.
Alors, on peut penser ce qu'on peut, mais moi je pensais que c'était un signe.
On peut penser que c'était 17 cailloux.
17e.
Ah, c'est magnifique.
Oui, alors c'est comme ça que j'ai écrit à la prière, bon voilà, je le ferai.
Et ça
voilà,
vous a pris
3 ans. 4 ans, oui.
Faut jamais ramasser les cailloux.
Voilà.
Il faut les jeter derrière soi pour faire une petite poussée de cailloux.
Donc c'est l'édition critique du CERF voilà. En 1993. Voilà. Mais toujours le but de faire ce petit livre, ce fameux
petit livre en anglais, voyons. Voilà. Parce que j'avais dû faire mes travaux en français, en littérature française, parce que ce sont les Français qui s'intéressent à Bernanos. Mais j'ai dit, bon, voilà, je suis près de la retraite, je vais faire cela tout tranquillement, une seule fois, je vais me permettre le luxe de travailler dans ma propre langue. Et je suis content d'avoir fait parce que finalement, je pouvais mettre toute ma passion là-dedans.
Et puis vous vous êtes offert ce plaisir, paraît-il, incomparable, que vous connaissez très bien, Nabokov, qui est de relire dans la langue de traduction un original qu'on a écrit dans sa propre langue, avec autant de facilité pour juger la traduction qu'on en a eu pour juger sa propre version. Et ça, c'est... Alors vous êtes content, j'imagine, vous voulez pas me dire le contraire, du travail du traducteur.
Monsieur Berre, c'était extraordinaire. Nous sommes presque frais spirituels de cette côté, n'est-ce pas?
Il est orthodoxe aussi?
Il est orthodoxe aussi.
Ah, ben, voilà. Ils deviennent dangereux, ils sont partout. Hein.
Ils sont partout.
Maintenant que vous citez un auteur que je connais, Nabokov, vous m'obligez à dire que c'était un plaisir qu'il mettait Nabokov dans des colères épouvantables. Oui, il l'a dit et il l'a écrit.
C'est vrai. Pas toujours, mais souvent. Il trouvait que c'est...
C'est pas Nabokov, c'est
Volkov. Nabokov, Volkov aussi, bien sûr, mais Nabokov a publié en allemand. Il relisait les traductions de ses ouvrages en allemand, en anglais, en français. Il écrivait en anglais, il écrivait en allemand, il écrivait en russe, bien entendu. Et c'était un virtuose dans toutes les langues. Mais quelques-uns de ses bouquins ont été traduits du russe, je crois, ou de l'allemand, je ne sais plus
exactement.
Par des Français, par des traducteurs français
et américains.
Et américaines. Et on peut dire qu'il n'était pas absolument toujours enchanté de ce qu'il voyait. Enfin, parler de Nabokov dans une émission où on parle de Bernanos, c'est un peu aventureux.
Mon fils est travaillé sur Nabokov,
non? Moi, je le tiens pour le plus grand écrivain du XXe siècle, mais sauf Bernanos, bien entendu, puisqu'il est là avec nous.
C'est pas comparable.
Donc, quand vous êtes entré dans l'intimité des Carmélites, pour écrire, enfin, des derniers jours des Carmélites, quel est l'événement, quel est le sentiment que vous avez éprouvé d'une façon immédiate le plus fort? C'est un sentiment de compassion, d'admiration, d'étrangeté?
Écoutez, j'étais moi-même à la recherche de la signification du martyr. Qu'est-ce que le martyr? En grec, martyr veut dire témoin. Donc, tout martyr est un témoin. Tout martyr, c'est un témoignage. Alors, voilà quelqu'un qui l'a vécu jusqu'au bout. Et dans des circonstances assez dramatiques, n'est-ce pas, avec la révolution, tout ça. Et d'ailleurs, on a fait en communauté, de bonne volonté, pendant 22 mois, on a prononcé tous les jours cet acte de consécration, s'offrant en victime d'Holocauste à Dieu pour restaurer la paix à la France et à son Église.
Oui, c'est ça qu'il faut. Qu'il faut tout le temps rappeler. C'est vrai que cette dimension-là, on a tendance, nous, à regarder les Carmélites comme les victimes d'un broyeur effroyable.
Non, c'est pas
la Révolution. Et c'est pas ça du tout. Elles se sont offertes en oblation, justement pour apaiser le mot est parfait, le titre est parfait, pour apaiser la terreur.
C'est une trouvaille. Non. Mais il n'y a jamais de tragédie dans le martyr chrétien. Le martyr chrétien dépasse l'idée du martyr.
Parce que
le martyr est toujours une théophanie. C'est une manifestation de Dieu.
Pour ça, je n'ai pas de question là-dedans. Blasphématoire, peut-être, je vous demande pardon d'avance, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de marche au martyr qui est une espèce de manifestation d'orgueil? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est tellement engagé dans une posture, une attitude, qu'on se dit, maintenant, il faut que j'aille au bout. Je peux plus reculer, c'est plus possible. Sinon, je pourrais plus me regarder en face moi-même. Mmh. Et est-ce que c'est pas un débat entre soi-même qui se passe plutôt qu'une marche vers le Seigneur?
Mais je crois que j'ai essayé de parler ça un peu avec Madame Lidoine, n'est-ce pas? Parce que elle était responsable vraiment de cet acte d'Holocauste. Et elle tenait beaucoup à que ça passe, que ça arrive. Mais en même temps, elle a essayé d'écarter, une fois après l'autre, tout ce qui allait détruire sa communauté. C'est un paradoxe. Mmh. Elle était une femme bien ancrée, très sensée, et elle avait ce côté mystique qui désirait le martyr. Les Carmélites, ça c'est normal. Mais oui, mais en même temps, elle essayait de protéger sa communauté. Alors, j'ai appris cela en travaillant cela. Parce que finalement, elle n'était pas du tout sadique ou, n'est-ce pas, masochiste. Pas du tout. Une femme très intelligente et très solide. psychologiquement.
Si je peux intervenir sur ce point qui pour moi est très très important dans ce livre, et le professeur Buch le manifeste très bien. Donc Mère Lidoine voit dans ce songe mystique qu'elle découvre dans les archives de la communauté, qui date d'un siècle auparavant, elle voit un signe où le Seigneur les appelle à se martyr. Et elle propose à sa communauté, elle le propose, c'est-à-dire que les carmélites votent ou en tout cas acceptent, lit très librement, puisqu'il y en a certaines qui vont d'abord contester puis se rallier, sans qu'elle intervienne, à cette idée de cet acte d'oblation, de s'offrir pour ce que le Seigneur voudra. Mais, comme le vient de le dire le professeur Buch, donc la Mère Lidoine, qui est celle, la supérieure, prendra tous les moyens nécessaires pour que sa communauté soit épargnée par le martyr. À la fois, elle le désire du fond de son cœur, mais elle prendra tous les moyens. Donc, quand elles seront expulsées, elle acceptera l'expulsion. Quand elles seront mises en habit civil, elle acceptera l'habit civil. Quand on leur demandera un serment de haine à la royauté, quand même, c'est pas rien, hein, de fidélité, le serment dit de liberté, égalité, elles le prêteront, puisque les prêtres les autoriseront. Lorsqu'elle passera devant Fouquier-Tinville, elle tous les moyens juridiques qui n'étaient pas grands devant le tribunal révolutionnaire, elle les utilisera. Elle dira, s'il y a une coupable, c'est moi, pas mes carmélites. Finalement, voyant que les carmélites vont être condamnés, elle dira au moins les sœurs Truyère, qui n'étaient pas des religieuses, qui étaient des servantes payées, dira, les servantes n'ont rien à voir, libérez-les. Finalement, elles seront condamnées de façon absolument scandaleuse, emmenées à la guillotine.
De façon citoyenne.
Voilà, elle veillera sur ses filles pour que ses filles meurent condamnées, donc guillotinées, martyres, mais en même temps bon condamnées, dans les meilleurs sentiments, qu'elle n'ait pas peur, etc. Et c'est seulement, comme le décrit le professeur Buch, lorsque toutes ses filles sont mortes, elle a essayé de faire tout ce qu'elle a pu, qu'elle peut s'abandonner au Saint-Esprit en disant voilà, le martyr est là et je m'y donne. Voyez. Donc moi je trouve que c'est il n'y a rien de justement d'exagéré, de recherche du morbide. Ouais. Au contraire, elle se défendra, elle défendra sa communauté, elle fera tout ce qui sera nécessaire, mais lorsque le martyr sera là, elle l'accepte et elle le désire. Mais si, et je dirais le ce qui est beau aussi, c'est que la sœur Marie de l'Incarnation, qui par le jeu de la Providence ne sera pas martyre, n'est pas privée de grâce, n'est pas méprisée, elle n'a pas été appelée à ce moment-là. C'est tout. C'est le Seigneur qui a choisi.
À l'évidence, elle avait une mission de témoin. Alors, une autre forme de
martyre. Elle était martyre aussi, mais dans un autre sens. Ouais. Donc, je crois qu'à votre question, le professeur Buch a bien répondu, mais vraiment, il n'y a eu aucun. À aucun moment, elle ne s'est sentie, je dirais, bloquée par quelque chose qui lui dirait je ne peux pas revenir en arrière puisque je me suis positionné comme étant une future martyre. C'est pas du tout ça. Et au contraire, elle a cherché à ce que si ces arguments juridiques avaient porté, elles auraient été libérées.
Mais
vraiment, ces arguments juridiques, elle est bon, mais à la fois le tribunal révolutionnaire n'entendait plus cela, et puis le Seigneur l'avait voulu comme ça.
Alors, in coda venenum, professeur Buchel, comment, après avoir consacré votre vie à Bernanos, après avoir publié des éditions critiques de toutes les œuvres de Bernanos et avoir écrit ce livre...
Tous les livres, c'est beaucoup dit.
beaucoup, non. Enfin, tous les livres, certainement pas quelques-uns. Oui. Et avoir publié ce livre, Apaiser la terreur, comment avez-vous pu ne pas devenir catholique?
Ah, oh, écoutez, voilà.
C'est fort difficile.
Est-ce qu'il faut demander permission?
Non, je crois qu'il faut laisser le
Je ne pouvais pas faire autrement que vous posez la question.
Voilà.
Moi, j'ai fait le chemin et vous pouvez bien essayer de me renseigner.
Voilà. Si monsieur l'abbé Cellier veut bien me permettre, je voudrais bien dire, c'est grâce à mon orthodoxie que j'ai pu pénétrer le mystère de la vocation.
Alors, moi, je ferai mon commentaire. Je dirais, dans ce livre, Monsieur Buch, c'est ma mission, un grand catholique.
Merci, monsieur. Parce que c'est un compliment.
Voilà, c'est un grand compliment.
Vous n'êtes pas orthodoxe.
Voilà, non, un grand catholique dans tous les sens. Et je pense que vous êtes un catholique orthodoxe. Et nous sommes des catholiques
orthodoxes. Une parfaite orthodoxie dans la catholicité.
Voilà, c'est ça. Donc, je crois.
Mais je voulais justement réunir, je montrais, parce que j'avais toujours cru que dans ce matin-là, les deux églises Et c'était le martyr qui était reconnaissable aux deux églises. Mmh. Et j'ai essayé de présenter cela. Mmh. Et je suis très content que ce livre se vende par écrit très bien au monastère orthodoxe dans le sud de la France.
À Lectoure.
Oui, fondé par le père Placide, n'est-ce pas, qui est formé à Mont-Athos.
Ben oui, bien sûr.
Alors, j'avais reçu des nouvelles de ça. Je suis très content.
Merci beaucoup, professeur Bouge.
Alors, peut-être quelques indications pratiques. Donc, je rappelle qu'il s'agit de William Bush, le livre Apaiser la terreur, aux éditions Clovis, qui vient de recevoir donc le prix Saint-Louis, qu'on peut commander aux éditions Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, boîte postale 88 91 152 Étampes. Le numéro de téléphone pour commander éventuellement, c'est le 01 69 78 30 23, 01 69 78 30 23. Donc je rappelle, je souligne, parce que c'est l'occasion du siècle, du millénaire, que le professeur William Bush signera son livre « Apaiser la terreur » le vendredi 14 février de 16h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement, donc le vendredi 14 février de 16h à 19h. Mais tous les jours, ce livre est à la disposition. Et je voudrais signaler, puisqu'il est avec nous dans le studio, que Monsieur Pierre Pacot, qui était donc le responsable de la librairie depuis 7 ans, la librairie France Livre depuis 7 ans, va nous quitter pour prendre une responsabilité dans l'entreprise familiale. Donc il quitte la librairie France Livre et il va être remplacé par Monsieur Jean-Jacques Lowe à compter du 1er mars 2002, par Monsieur Jean-Jacques Lowe qui est présent ici et qui nous fait l'honneur de nous adresser quelques mots sur sa nouvelle fonction. Donc
dépêchez-vous de me trouver sympathique parce que dans quelques jours vous allez me trouver extrêmement antipathique.
Voilà, c'est ça. Et donc, les gens qui viendront pour cette signature le 14 février de 16h à 19h trouveront M. Pacot en partance, disons, pour ses derniers jours à la librairie, et M. Jean-Jacques Lowe qui commence, disons, qui, vous savez, c'est comme la course de relais. Il commence à se lancer avant de prendre le relais à partir du 1er mars. Donc, ils seront très bien accueillis à partir du 1er mars, comme ils ont été très bien accueillis pendant les 7 ans précédents avec M. Pacot.
Il est grand temps de faire un insert légal et non plus publicitaire, puisque je supplée notre chère Victoria. Et vous savez qu'on doit s'identifier tous les quarts d'heure. Et je propose de tourner les choses ainsi. Chers auditeurs, il est 20h et 28 minutes. Et vous regardez toujours Radio Courtoisie, vous n'écoutez toujours pas la télévision, et vous avez raison.
Merci beaucoup, professeur. Et j'espère vous revoir avant les délais qu'a fixé.
Mais il n'y a pas de problème, puisque vous le verrez le vendredi 14 février de 16h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Pour la signature de Monsieur Bush.
Ça serait d'ailleurs l'occasion de trouver le futur libraire antipathique.
Voilà.
Donc c'est Monsieur Jacques Lowe que vous venez d'entendre. Il n'a pas parlé beaucoup.
Non, pas énormément.
Ce qui n'est pas une qualité pour la radio.
Ce n'est pas plus mal. C'est pas le travail d'un libraire de parler. Quoique.
Voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup. Je conseille vraiment aux auditeurs de venir rencontrer le professeur Bush, parce que il faut le voir. C'est je peux pas en dire plus parce que je serais obligé de parler de lui devant lui, ce qui est une incorrection, mais il faut voir ce monsieur qui me paraît l'incarnation même de l'universitaire anglo-saxon tel qu'on l'imagine dans ses rêves les plus bercés de cinéma et les plus optimistes sans doute, mais quand on a vu des universités américaines au cinéma, quand on a vu ou anglaises, surtout anglaises, c'est ça exactement. Voilà.
Ajoutons, Serge, que nous ne connaissions pas cette sympathie pour Monsieur Bush.
Non,
je dirais effectivement ce n'est qu'un à côté, mais on peut vraiment apprécier William Bush, les dimensions et sans aucun problème, et quelles que soient les circonstances.
Merci encore. Alors je me tourne maintenant vers un autre personnage tout aussi sympathique, mais moins titré quand même, Mon cher Henri de Fersan, en songeant à la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec Maître Wagner et Maître Delcroix, et donc en vous imprégnant bien de l'idée que la loi Lelouch a été votée, est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois raisons qu'on aurait de lire le Libre Arverne, le numéro qui vient de paraître ou qui va paraître? Vient-il? Alors, ou va-t-il?
Il y a quatre numéros d'un coup qui vont paraître demain.
On en sortira. Il nous fait un quotidien qui sort une fois par mois, voilà. Après il fait un hebdomadaire qui sort quatre fois par semaine.
Et dire que certains croient que j'exagère en citant le vendredi 14 de 16h à 19h.
Il faut prendre la baisselier pour taper sur Fersan. C'est la seule solution.
Alors allez-y, Fersan.
Vous auriez plus de mal à faire le contraire, à mon avis.
Oui.
Ou alors il faudra prendre une grue.
Alors allez-y, donc il y a quatre numéros qui sortent d'un seul coup.
Eh oui, parce que j'ai pris un petit peu de retard dû pour des raisons très courantes dans mon Auvergne où je réside, à savoir la neige.
Ah oui, en hiver ça arrive ça.
Oui. Quand on peut pas sortir chez soi pendant 15 jours, ça pose quelques problèmes. Donc demain, quatre numéros vont sortir d'un coup. Ce qui est quand même une performance, ce qui va me nécessiter quelques heures supplémentaires et alors enrichir la pharmacie.
Qu'est-ce qu'on lira? D'avouable, s'il vous plaît.
Oula, d'avouable.
Alors, si vous
ne vous ferez pas l'offense de parler de la rubrique sport, qui est une orthodoxie totale par rapport à la loi Lelouch. Alors, bien sûr, les rubriques de politique étrangère, qui elle est particulièrement avouable. Mmh. Avec notamment des articles, un article sur le réarmement actuel de l'Inde qui va rentrer dans le club très fermé des possesseurs de sous-marins nucléaires, sous-marins à propulsion nucléaire, hein, tire pas encore des missiles nucléaires, mais ils sont à propulsion nucléaire, ce qui va complètement chambouler la perspective géostratégique de l'océan Indien.
Et il paraît que l'Inde va rejoindre l'axe Paris-Rome-Berlin-Pékin. Paris-Berlin-Moscou-Pékin.
C'est une probabilité, puisque le rival numéro un de l'Inde, c'est le Pakistan, État qui, ancien allié des États-Unis, est devenu maintenant l'ennemi public numéro un des États-Unis dans la région, ce qui est un total retournement d'alliance par rapport aux années 80 et aux années 90, où c'était l'Inde qui était à l'époque perçue comme une menace potentielle pour les Émirats du Moyen-Orient alliés à l'époque aux États-Unis.
Mais il n'y a pas que de la politique étrangère.
Il n'y a pas que de la politique étrangère, il y a la rubrique politique tout court, où donc il y a des articles, notamment plusieurs articles consacrés à l'effondrement maintenant total sur le plan électoral du Parti communiste, puisque un à un, Sébastien Ancel-Saint-Denis tombe. Même son ancien chef, on peut pas dire charismatique, parce que le charisme est justement ce qui lui fait défaut, Robert Hue.
Charisme nanique,
le Stalinien de jardin. C'est normal, hein, puisque il faut savoir que Robert Hue a commencé sa carrière dans le rock'n'roll et qu'il était, donc je ne sais plus s'il était chanteur ou batteur, d'un groupe qui s'appelait Les Rapaces.
Les Rapaces et le Parti communiste.
Pour quelqu'un qui a présidé à l'enterrement électoral du Parti communiste, je trouve que le nom Les Rapaces est particulièrement bien trouvé.
C'est plutôt les charognards, en l'occurrence, qu'il faudrait dire.
Ensuite, donc, il y a aussi les éditoriaux. Alors, un éditorial, notamment, qui est consacré à une loi aberrante qui a été lancée dans l'air du temps en Angleterre. Et on sait généralement que quand c'est lancé dans les pays anglo-saxons, ça a une certaine proportion à nous retomber sur la figure. À savoir, une autorisation, une sorte de permis parental, où on donnerait ou non l'autorisation aux parents d'avoir des enfants, ce qui est une pratique purement scandaleuse.
C'est pas à moitié fou, ça. Tiens, j'ai lu ça sur Vexillarégis.
Oui, vous l'avez lu sur Vexillarégis, moi aussi, me semble. Oui. D'ailleurs, je crois que nous avons les mêmes sources.
Nous sommes vexilliens, oui.
Nous sommes vexilliens, l'un et l'autre.
En Vexillarégis, il faut préciser que c'est un forum internet royaliste, comme son nom l'indique, auquel nous apportons notre...
modeste contribution.
Modeste, très modeste, voilà.
Donc pour ceux qui voudraient faire connaissance avec le journal, je présente le journal et...
Vendredi, de 14...
samedi. Samedi, donc, de 10h à 17h à la librairie La Licorne Bleue, 3 bis rue Jules Vallès, Paris.
Dans le 11e
arrondissement, métro Charonne. Je précise l'orthographe de Charonne, C-H-A-R-O-2-N-E.
Oui,
voilà. Je précise l'orthographe.
Il n'y a pas encore de métro Ariane Charonne à Paris, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
Voilà, je tiens à le préciser. et donc où je présenterai les journaux, le Libre Arverne hebdomadaire et les Lettres Fersanes mensuelles, dont le numéro de février d'ailleurs sortira pour l'occasion, et où je présenterai également la nouvelle traduction d'un roman américain dont le titre m'échappe, un roman américain dont le titre m'échappe, qui a quand même été vendu à 500 000 exemplaires aux États-Unis, ce qui est un succès de librairie assez estimable. Nouvelle édition illustrée par notre char national, qui a fait 6
chars de combat,
notre char d'assaut, qui a fait 6 illustrations absolument superbes, il faut bien le dire, donc de ce roman américain que je présenterai au public dans sa nouvelle traduction samedi.
Où?
À la licorne bleue.
Toujours
à la licorne bleue en même temps. Donc pour les journaux, alors pour ceux qui seraient intéressés pour le Livre Arverne hebdomadaire, je profite de pouvoir encore faire de la publicité. Parce que tant que la loi de Lelouch vient d'être votée. Donc pour avoir un exemplaire de démonstration, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un carnet de timbre aux publications Henri de Fersan, 4 route de Bournazet, Bellevue, 63-870, Orsines. L'abonnement trimestriel est à 39 euros et l'abonnement annuel à 156 euros pour 52 numéros, c'est-à-dire en moyenne un par semaine.
Je précise. Parfois 4 d'un coup, c'est comme le petit tailleur.
Voilà. Mais au moins il y en aura 52 dans l'année.
Merci Henri de Fersan. Le bouquin.
Le bouquin. Alors oui, le mensonge antiraciste, mm-hmm. Il est quasiment terminé. Les bonnes pages, alors justement, puisque je suis allé à la licorne bleue, je montrerai en exclusivité et en première les bonnes pages du mensonge antiraciste. Ce ne sera pas l'Arlésienne, il va sortir incessamment sous peu, il est quasiment terminé.
J'aimerais bien qu'il sortisse, ça m'éviterait de répondre à des lettres de clients mécontents. Oui, il n'y a pas que U qui a débuté par le rock, Raffarin aussi nous fait remarquer. C'est vrai qu'on a une classe politique de rockers.
On va où ça mène,
Musique satanique.
Ah ben. Voilà, ça c'est bien. Le reste, on ne le lit pas parce que c'est évidemment inspiré par la méchanceté pure. Alors, quelques annonces rapides.
Je tiens à préciser pour ceux qui sont connectés sur Internet que grâce à la gentillesse d'un vexilien, j'ai mon site Internet maintenant, www.hdf.fr.fm. comme Marguerite. Donc c'est le site internet des publications Henri de Fersan, où on y trouve tous les livres parus par les éditions Henri de Fersan et les meilleurs articles du Libre Arverne et des Lettres Fersanes.
Pas les plus mauvais, juste les meilleurs.
Voilà, mais ils sont tous les meilleurs des meilleurs.
Il y a aussi un site du Libre Journal dont je ne serai jamais capable de me rappeler l'adresse.
Je suis là pour ça, Serge.
Ah ben voilà, merci. Alors dans 2 minutes, si vous permettez, mon cher Patrick, je vais vite lire les annonces que j'ai promis de lire. Il y a donc le 22 février à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à 11h, les amis de Jacques Perret font célébrer une messe. Pour Jacques Perret, bien entendu. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis. Donc vendredi 14 février 2003 de 16h à 19h, William Bush dédicacera Apaiser la terreur à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. À la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, demain jeudi 13 février à 20h30, Éric Delcroix donnera une conférence intitulée « La diabolisation politique par la décadence du droit » et dédicacera son livre « Le théâtre de Satan ». Le jeudi 20 février 2003 à 19h, sur le parvis du Trocadéro, sauf changement parce que j'ai pas bien compris si c'était maintenu ou pas, en tout cas c'est annoncé là, jeudi 20 février 2003 à 19h, parvis du Trocadéro, manifestation organisée par Chrétienté Solidarité contre l'invitation du criminel Mugabe pour dénoncer la politique chiraquienne en Côte d'Ivoire. C'est les deux choses. Donc c'est organisé par le Chrétienté Solidarité de Bernard Anthony. Maintenant qu'on a tous acheté le livre du docteur Willem, pourrait-on le réinviter pour lui poser des questions? Oui, absolument. Il est invité prochainement pour une émission un peu plus longue. L'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem organise une réunion 48 heures pour la Terre Sainte le samedi 8 mars 2003 de 10h à 19h30 et dimanche 9 mars de 10h à 17h à la salle paroissiale Notre-Dame de Grenelle, 15 place Étienne Pernet, 75 015 Paris, métro Félix Faure, vente au profit de nos amis chrétiens de Terre Sainte. Alors cadeaux, peinture sur porcelaine, sur soie, vêtements d'enfants, déguisements, linge de maison brodé, maroquinerie, bijoux, art de la table, livres, portraits d'enfants, oiseaux et fleurs en tissu, objets d'antiquité, cadeaux pour baptême et communion, vente et dégustation d'huîtres, bon, on ira, gâteaux sucrés et salés, épiceries fines, vin. C'est les petites sœurs de Notre-Dame de la Consolation qui viendront spécialement de Draguignan pour proposer leurs travaux, à savoir des images pieuses, des linges d'hôtel, des étoles, etc. Et vraiment, si vous ne connaissez pas les petites sœurs de Notre-Dame de la Consolation, qui sont un enchantement, il faut aller. Donc, le samedi 8 mars et le dimanche 9 mars, on en reparlera parce que je vais inviter quelqu'un pour nous présenter cette journée à la salle paroissiale Notre-Dame de Grenelle, 15 place Étienne Pernet, de 10h à 19h30. Samedi 8 mars, une conférence d'Olivier Pichon pour en finir avec mai 68. Ça se passe dans le cadre du 4e forum de l'éducation nationale à l'école Saint-Bernard de Courbevoie, école secondaire Saint-Bernard, 29 boulevard Saint-Denis, 92 400 Courbevoie, avec aussi une intervention de Denis Duverger, professeur de lettres. Une chose qui peut vous intéresser aussi peut-être, c'est même sûrement, c'est un atelier pratique qui est organisé par le docteur Bernadette de Gasquet. Comment préserver son dos au quotidien? Quels sont les bons gestes à faire? Comment se muscler sans s'abîmer le dos? Quels sont les bons exercices pour se muscler le dos? Quelles sont les bonnes positions à tenir? Faut-il travailler les abdominaux quand on a mal au dos? Comment? Les erreurs à éviter? Bernadette de Gasquet, l'auteur du récent ouvrage Abdominaux, arrêtez le massacre, aux éditions Robert Jose, qui vient de paraître en février 2003. Et donc cet atelier pratique aura lieu le jeudi 4 mars à 18h30 à l'adresse Kyria, 108 boulevard Saint-Germain, 75 006 Paris, renseignement 01 55 42 52 52. L'Association pour la défense de la langue française et de la culture française organise le 17 février 2003 une manifestation funéraire en hommage à feu le franc français. Départ à 19h30, place des Victoires, Paris, 1er arrondissement. Au son des tambours, à la lueur des flambeaux, jusqu'à l'hôtel des Monnaies, 6 rue de Quai de Conti, dans le 6e arrondissement. Alors je rappelle la date, 17 février 2003, à 19h. Et puis, préparez-vous, j'en parle brièvement pour l'instant, le samedi 8 mars également 2003, une grande journée à Grand Maison à Villepreux, qui est un endroit magique, magnifique, enfin il faut plus dire magique, un endroit magnifique, somptueux, une grande journée du Centre Charlier, journée culturelle d'amitié française, donc ça revient, ça avait été suspendu pendant quelques années, Bernard Anthony a décidé de recréer ces journées d'amitié française, donc avec un forum Bachaga Boualem, la vérité sur l'Algérie, un forum Alexis Carrel, science ou idéologie, un forum Jacques Perret, bilan de l'année Maurras, un forum Simone Weil, non à la désinformation, un forum Yvan Tomasi, liberté pour l'Indochine, un forum Béchir Gemayel, contre l'impérialisme islamique, et un forum Rendez-vous de la Griffe, avec Hélène Sabatier, Valérie Saint-Just et Jean-Baptiste Biaggi. Il y aura une librairie, un bar, des stands des journaux et associations, et ça se terminera par un discours de Bernard Anthony, président de la Griffe et de Chrétienté et Solidarité, la France face aux défis islamiques, et qui sera suivi par un grand banquet d'amitié française au cours duquel sera remis le prix Charlier 2003. Ça se passera le 8 mars et la semaine prochaine Bernard Anthony viendra nous parler de ça et d'autres choses d'une façon un peu plus longue. Je vous conseille la lecture du dernier numéro de la Nef qui est consacré pour une bonne part à un dossier sur le modernisme et notamment un personnage tout à fait extraordinaire du modernisme qui s'appelait Loisy. Il y a un papier, il faudrait le dire à chaque numéro, là ce dossier est vraiment formidable, vraiment excellent, passionnant, très bien fait, et il y a un papier de Jean-Marie Popper qui est une splendeur. Vraiment, il faut le lire, parce que c'est comme tous ces papiers sont vigoureux, enlevés, bourrés d'argumentation et tout, mais celui-là, comme il a vraiment étudié l'Oisy, puis lui, il a été aussi l'otage, si j'ose dire, du modernisme, il s'en est guéri, et il en parle avec une sincérité, une vérité.
Il faut rappeler au moins de 20 ans, si c'est en mesure de les impressionner, qu'il a été l'auteur d'énormes tirages il y a une vingtaine d'années. C'est peut-être pas un argument, mais
c'est un grand bonhomme.
Il tirait à 300 000, 400 000.
Ouais, c'est surtout un homme qui a été à la pointe du modernisme dans l'Église, et qui, et quand il est arrivé au bout, à force de travail, de réflexion, et de courage et d'humilité, il s'est dit, mais j'ai complètement fait fausse voie. Il a réintégré la tradition, et vraiment, c'est un personnage tout à fait supérieur. Voilà, vous avez encore 2-3 minutes pour dire quelques mots de...
2 ou 3 minutes.
Oh, peut-être plus, je sais même plus.
Nous allons jusqu'à quelle heure, Serge? Jusqu'à 21h,
non? Demandez pas ça, je n'ai jamais bien compris.
Franck
va nous
là,
dire dans peu d'instants.
Je pense qu'il faut qu'on s'arrête à 9h-5 pour laisser place à des messages, etc. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 20h45, je le confirme. Et donc j'ai quelques minutes pour aborder deux sujets connexes d'ailleurs, à savoir l'évolution de l'affaire Limonov et le Libre Journal. Le Libre Journal, la connexion elle est la suivante, c'est que pendant 6 mois, le Libre Journal et cette émission de Radio Courtoisie ont été absolument les seuls à parler de cette affaire qui aujourd'hui, brusquement, est absolument partout. Ceux de nos auditeurs qui lisent les journaux, qui écoutent les radios, entendent parler de Limonov à peu près tous les jours. Je citerai deux exemples. Il y a une semaine, notre ami Amish me mettait sous le nez un article du Monde avec des photos en couleur. Quelques instants plus tard, il se moquait des photographes du Monde, mais maintenant il y a des photos dans le Monde et même en couleur. Je trouve à peu près le même genre de photos dans le numéro du 10 février de Marianne, c'est-à-dire des photos de 1998 où on voit Limonov faire le matamore et agiter des drapeaux nationaux bolcheviques. Alors, puisque c'est partout, disons-le, même si ça nous accable un petit peu, des drapeaux rouges avec un cercle blanc où s'inscrit en noir la faucille et le marteau. De quoi se faire traiter de sale bolcho par Alain Sanders, de sale facho par toute la presse de gauche, et n'avoir que des amis et se faire enterrer vivant alors qu'on est, je le rappelle en deux mots, accusé d'avoir préparé un coup d'État au Kazakhstan avec 2 Kalachnikov usagés vendus par des provocateurs du FSB à des gamins de son fan club. Alors, je le rappelle également, ce sont quand même 14 ans de camp à régime sévère, traducteur, traduisé, c'est-à-dire de goulag qui pendonnait du grand écrivain Édouard Limonov, détenteur d'un passeport français, qui n'a pas la chance, comme M. Zacharias Moussaoui, impliqué dans les crimes épouvantables du 11 septembre, de bénéficier du soutien du Quai d'Orsay et de la place Vendôme dans les heures qui suivent son inculpation. Lui, depuis 22 mois, il attend toujours un mot, une visite, un cachet d'aspirine de la part de notre diplomatie. Il n'a rien eu du tout.
Je précise que pour un Limonov est asthmatique, et que pour un asthmatique, 14 ans de corps régime sévère, c'est la condamnation à mort.
Un asthmatique de 60 ans a plus forte raison. Oui, c'est une menace de condamnation à mort. Alors, pour en finir avec les médias, je m'arrête un instant sur Marianne, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler. On m'a donné quelques minutes il y a 4 mois pour en parler, parce que Marianne venait de publier 2 pages intitulées « Poutine n'aime pas les écrivains ». Et ces 2 pages étaient consacrées à 2 pornographes de Moscou. Bon, il faut que tout le monde vive, d'accord. Mais enfin, ces gens-là
n'en vois pas la nécessité.
Ces gens-là étaient poursuivis, mais libres. Simplement, Marianne s'indignait de ce que le parquet de Moscou les poursuive pour de la pornographie quand même assez hard, qui pourrait même peut-être faire objet de poursuites en France. Et pas un mot dans Marianne pour Limonov. Mais ça y est, dans la foulée, et avec le même genre de belles photos que Le Monde, que Libération, que tous les journaux, on a une colonne dans Marianne qui s'intitule « Qui c'est celui-là ?» c'est celui que tu enterres vivant à grands coups de pelle avec ce genre d'article dont je parlais à l'instant. Édouard Limonov, la grenade russe des goupillés, etc. Et l'article s'avère, je vous le passe, mais il s'avère encore plus venimeux que celui du Monde. Il y a une différence, il y a une nuance que je n'hésite pas à révéler à ce micro, c'est que avant de passer sa photo malveillante, la même que le Monde, Marianne me téléphone, c'est-à-dire me téléphone à moi, le secrétaire de la campagne Libéré Limonov, pour me demander mon avis. Alors je donne mon avis et je dis, ce serait peut-être quand même un peu plus sympa, un peu moins dégueulasse, non je veux dire un peu plus sympa, de passer une photo d'aujourd'hui. Elle ne manque pas de Limonov, chevelu, barbu, amaigri, derrière les barreaux. Et à ce moment-là, on me dit, mon correspondant de Marianne me dit, ah ben non, vous comprenez, c'est vrai, je vous demande votre avis, mais enfin c'est aujourd'hui le bouclage, donc je ne pourrai pas suivre votre avis, et l'agence de presse photo dont vous me donnez le numéro de téléphone est très bien, mais malheureusement, comme c'est aujourd'hui le bouclage, je ne pourrais pas suivre votre avis. J'espère que vous saisissez la nuance avec le fait, comme le Monde, de passer la même photo dégueulasse sans me demander mon avis. Alors, ça change tout. Tout est dans l'esprit et ça permet de passer un article encore plus venimeux. Alors, j'en finis avec la presse en indiquant que, Dieu merci, elle n'est pas encore totalement totalitaire, nous dirait Maître Delcroix, et que je suis obligé de recommander le numéro du Point qui va paraître demain jeudi, parce qu'il s'y trouve, et ça aussi c'est délicieux, tête bêche avec le débloque-notes de Bernard-Henri Lévy, un article d'une tribune d'une pleine page de notre ami Patrick Besson, pilier du comité Limonov, illustré d'une photo un peu plus honnête, c'est-à-dire Limonov derrière les barreaux, et qui prend la défense du grand écrivain franco-russe, donc demain dans le Point. Et j'en arrive sans transition, il n'y a aucune transition nécessaire à parler du Libre Journal, puisque le numéro en cours, numéro 285, daté du 8 février, publie un article sur Limonov, la nécrologie de son épouse, dont le cœur a lâché, qui est morte d'une crise cardiaque 2 jours après qu'on a requis 14 ans de goulag contre son mari, qui était une grande chanteuse que nos auditeurs ont pu entendre. Alors on a des réactions, il y a des gens qui nous écrivent chanson phénoménale. Tout à l'heure on a reçu un message et une semaine après quelqu'un ne s'était pas encore remis de cette crise d'hystérie. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir encore une fois d'avoir l'exclusivité de cette chanson de Limonov dans toute la presse, dans tous les médias audiovisuels. Merveilleuse coïncidence, ce numéro en cours publie une double page d'Anne Brassier sur Anne de Kiev, reine de France et fille de la Sainte-Russie. Et ce numéro en cours engage une grande enquête, un feuilleton, où va la droite nationale? Alors là encore, j'en laisse le monopole, l'exclusivité à nos abonnés. Il y a eu beaucoup de réactions de toutes sortes sur l'interview de Bruno Maigret. J'indique simplement que le prochain épisode, donc le 18 février numéro 286, ce sera le tour de Bruno Gollnisch, auquel numéro 2 donc de ce feuilleton, auquel succéderont encore beaucoup d'autres responsables de la droite nationale. Je dois indiquer également, nous avons beaucoup parlé de l'Irak aujourd'hui, nous n'oublions pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et nous aurons une interview, je suis peut-être naïf, mais je le dis comme je pense, vous me corrigerez éventuellement, du seul et unique africaniste que nous ayons en France aujourd'hui. C'est pourquoi il est muselé, c'est pourquoi il est chassé de l'hôtel de ville de Paris. Et il croise la route de Monsieur Azedine Al-Adan qui vient poignarder le maire de Paris. C'est pourquoi il ne peut s'exprimer qu'à Radio Courtoisie. Si on voit le résultat de la politique française en Côte d'Ivoire, je pense que on n'a qu'un seul africaniste, qu'il est muselé, qu'il ne peut parler qu'à Radio Courtoisie, et dans le Libre Journal numéro 286.
Dans son trimestriel, l'Afrique réelle.
Et son trimestriel, l'Afrique réelle, dont je ne connais pas l'adresse par cœur, je m'en excuse. On me fait signe qu'il faut conclure. Alors, je conclue en rappelant qu'on peut avoir un spécimen du Libre Journal en envoyant un carnet de timbre à l'adresse que je vais indiquer dans un instant. Mais j'indique au radin,
comme Serge y a fait allusion tout à l'heure, qu'ils trouvent qu'un carnet de timbres, c'est encore trop, qu'ils peuvent trouver un spécimen en couleur à l'adresse internet suivante, papier crayon, libre-journal.fr.fm. Quant à ceux, les bien comprenants, qui ont compris qu'il vaut mieux s'abonner tout de suite pour un an au prix de 110 euros, ils envoient leur chèque à l'ordre de SDB. Et à l'adresse de SDB, 4 place France Liszt, 75010, Paris.
Merci Patrick, merci Henri, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés avec autant de patience. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 12 février 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h.